Voilà, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue pour ce café scientifique qui s'annonce mordant, ma non troppo, on va quand même pas se dévorer parmi nous. Donc, avec comme thème le loup, et une fois de plus, l'actualité vient hurler en écho de ce rendez-vous, de ce café scientifique, parce que, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais tout récemment, une meute a été observée dans les Grisons, c'est une première en Suisse. Jusqu'ici, il n'y avait jamais eu de meute, que des individus solitaires, principalement des mâles, parce que c'est eux qui se propagent d'abord. Et puis l'actualité aussi politique, avec le loup, parce que vous savez que le Conseil des États en Suisse a décidé d'autoriser des tirs de régulation. Ça a suscité une grande discussion. On entre en contradiction avec la Convention de Berne. Mais il n'y a pas que la Suisse où il y a peu de loups, 17, une petite vingtaine dénombrée l'année dernière. Mais surtout en France où il y a beaucoup plus de loups. Et là, le Sénat français, le 30 janvier, donc c'est tout récent, hein, c'est vraiment en écho de ce rendez-vous, a décidé aussi d'autoriser des zones d'exclusion pour permettre, sur ordre des préfets, d'abattre des loups lorsqu'il y a trop d'attaques sur les troupeaux. Alors juste un mot pour situer par rapport à la Suisse, où il y a eu quelques dizaines de moutons attaqués. En France, les chiffres sont plus spectaculaires, mais le territoire est aussi beaucoup plus grand, donc il faut tout relativiser quand on parle du loup et de la propagation et des dégâts. En 2008, il y a eu 2600 bêtes tuées en France par des loups. En 2011, le chiffre avait quasiment doublé, on était à 4900. Et en 2012, ça a dépassé le cap des 5000. Donc le Sénat français décide d'autoriser des tirs de régulation du loup dans des zones qu'on appelle d'exclusion, parce que le loup est protégé par la Convention de Berne notamment. Donc, et la Suisse et la France sont prêtes à entrer en contradiction avec des grandes décisions, des grands accords internationaux. Ça pose un peu toute la problématique de ce grand prédateur et de son retour. Pour discuter et faire le point de cette question, nous avons réuni une belle brochette de jambons, dans le sens, pas dans le genre de jambon appétissant pour le loup, mais de personnalités compétentes et spécialistes du domaine, à commencer par Candice Bahn, qui est une biologiste de l'Université de Neuchâtel, qui a fait des séjours à Yellowstone, dans le parc de Yellowstone aux États-Unis, où elle a pu observer des loups, avec d'ailleurs une autre chercheuse de l'Université de Neuchâtel, qui est Barbara Molnar, qui est aussi ici ce soir, qui est là-bas au fond, à qui on a déjà dit qu'elle pouvait intervenir quand elle le souhaitait dans cette discussion. Alors Candice Bahn, elle va nous mettre dans l'ambiance. Qu'est-ce qu'un loup? Qu'est-ce qu'une meute de loup? Qu'est-ce qu'on en a découvert ces derniers temps? Et vous verrez qu'en plus, il y a des similitudes avec le comportement humain, ce qui est assez déroutant. Ça, c'est pour l'ambiance dans la nature. Après, on va voir l'ambiance dans le terrain avec Jean-Marc Weber, qui a été pendant 10 ans, je crois, 12 ans, responsable du suivi du loup au CORA à Berne. Donc c'est l'institution qui suit les grands prédateurs au niveau suisse. Donc un grand spécialiste du loup. J'ai encore regardé hier soir, il a publié des études avec des chiffres très détaillés sur la progression, le nombre, les statistiques. Il est devenu depuis inspecteur neuchâtelois. Là, c'est difficile parce que c'est au service de la faune, de la nature et FFN, faune, forêt, nature, inspecteur de la faune. Il est par ailleurs aussi, il est toujours chasseur, donc et inspecteur et chasseur et chercheur au CORA pour la propagation du loup. Donc ça, c'est pour la situation dans le terrain. Après, on va parler des peurs que suscite le loup, parce que le loup, ça fait toujours peur. À l'époque, il faisait peur parce que si on se faisait dévorer sa chèvre ou son mouton, on pouvait mourir de famine et la famille pouvait être décimée avec son bétail. Et on a avec nous M. Bernard Perroux qui a accepté de venir vers nous pour nous parler de son cheptel. Il a 500 moutons actuellement. C'est la période de mise bas, donc ça bouge tous les jours. Et c'est vrai que quand on est éleveur dans le canton de Neuchâtel, dans l'Arc jurassien, et qu'on entend que le loup se rapproche, ça suscite quelques craintes et il va nous en parler. Ça, c'est pour les peurs très concrètes. Et après, il y a les peurs beaucoup plus symbolique, beaucoup plus toutes les émotions que réveille le loup. Et là, on a avec nous Jacques Hénard, l'ethnologue, qui va nous donner un petit peu un regard plus socio-ethnologique sur le loup et la peur que provoque le loup. Je voulais encore juste donner un chiffre. En 1976, en Italie, le loup a été décrété protégé. Je vais retrouver mes notes quand même. Donc, depuis 1976, le loup est protégé dans les Abruzzes en Italie. Sa population a quadruplé. En 1985, donc 9 ans plus tard, un loup a été vu à Gênes. Donc le loup est remonté les Apennins, il est arrivé jusqu'à Gênes en Italie. Donc il a mis 9 ans pour arriver jusqu'à Gênes. 7 ans plus tard, un loup a été observé dans les Alpes-Maritimes françaises. Puis la France, le Mercantour, le Val Ferret en 95, la fameuse affaire du loup du Val Ferret en Valais, et puis le loup qui se développe, qui se propage, mais avec de grandes difficultés, parce qu'il a quand même d'immenses et de nombreux obstacles. Alors ça, on le verra. Voilà un petit peu pour le topo général, et on a Jean-Marc Landry qui arrive, donc ça aussi, c'est un spécialiste du loup qui est parmi nous, donc ça fait plaisir. Je salue aussi la présence dans la salle de M. Denis Boyat, qui est président des chasseurs neuchâtelois, et comme je le disais tout à l'heure en souriant, on a le prédateur, qui est le loup, on a les défenseurs, les protecteurs de l'environnement, puis on a aussi, comme le disait un chasseur, les consommateurs, pas de loups, mais de gibier des forêts. Voilà pour ce petit préambule, et alors tout de suite maintenant, pour savoir un petit peu où on en est des connaissances du loup et de sa vie sociale en meute, je passe la parole à Candice Bahn pour Yellowstone et les meutes de là-bas.
Bonsoir tout le monde. Donc oui, je m'appelle Candice Bahn, j'ai fait mes études en biologie à l'Université de Neuchâtel. Et pour mon diplôme, je suis donc spécialisée dans l'écologie comportementale. Et en collaboration avec Barbara Molnar, on a mené une étude sur les loups et notamment la gestion des conflits chez les loups dans le parc de Yellowstone. Donc déjà, pourquoi on a choisi le loup dans la gestion des conflits ? On voulait savoir s'il y avait de la réconciliation, et il s'avère que la réconciliation se développe chez des espèces très sociables qui vivent en groupe et qui bénéficient de la vie en groupe. Donc oui, le loup est une espèce très sociable qui vit notamment en groupe d'habitude de 2 à 8 individus, et il coopère dans la vie de tous les jours, notamment dans l'élevage des petits, la défense du territoire ou tout ce qui est les comportements de chasse. Et on s'est aussi rendu compte de tout ce qu'on a pu voir sur place, que leur structure sociale se rapproche plus d'une structure familiale, donc avec un couple de loups qui sont les parents et les générations qui forment le reste de la meute. Donc on s'est dit qu'il pouvait y avoir des comportements de réconciliation chez ces loups. Et c'est pour ça qu'on est parti à Yellowstone. Pourquoi Yellowstone ? C'est le seul endroit au monde où on peut voir les loups aussi facilement, on va dire relativement facilement. Donc là, vous avez derrière vous une image du parc, où notamment c'était une des vallées où on pouvait les observer, donc entre les bois et les plaines. Et parce que oui, il faut savoir que dans le reste du monde, le loup est très timide, on n'a pas l'habitude de le croiser tous les jours, contrairement à l'image qu'on peut s'en faire de cette bête agressive qui viendrait dans nos villages nous attaquer. Donc personnellement, je me suis donc focalisée sur la gestion des conflits. Nous avons passé 5 mois là-bas à prendre des vidéos avec ce type de matériel, vidéos que j'ai analysées, et on a récolté tous les conflits. Enfin, personnellement, j'ai récolté tous les conflits qui se sont passés au sein de ces meutes. On en a suivi 2. Et là, surprise déjà, il n'y en avait pas beaucoup. On a eu un manque de données, ce qui montre déjà que la vie en groupe n'est pas menée essentiellement sur des comportement agressif, bien au contraire, il y a beaucoup plus de périodes de jeu, de repos et de contacts affiliatifs, donc de contacts amicaux, que de contacts agressifs, de conflits. Ce qui dépeint déjà une autre image que l'on pourrait avoir jusqu'à maintenant du loup tel qu'on l'a décrit agressivement. Donc ce qu'on en a retiré, je vous passe aussi des images du loup en attendant, ce qu'on en a retiré en 2 mots, c'est qu'effectivement, après des conflits, les loups engagent dans des comportements de réconciliation, c'est-à-dire qu'ils vont chercher le contact amical après un conflit, justement, pour essayer, on hypothèse, pour garder cette cohésion du groupe si nécessaire à leur vie dans la nature, parce qu'ils chassent en groupe, parce qu'ils défendent leur territoire et parce qu'ils élèvent leurs petits en groupe. Donc cette notion de groupe est si importante pour eux qu'il faut qu'ils aient des liens amicaux vraiment très très forts. Donc voilà, apparemment, les loups se réconcilient de ce point de vue-là. Comme je vous l'avais dit avant, on a vraiment pu observer dans la nature cette notion de famille, beaucoup plus qu'on le dépeint dans les loups en captivité, avec cette notion de hiérarchie très très intense, avec un mâle alpha et ensuite une hiérarchie linéaire qui est très rigide. Eh bien, pas du tout. En tout cas, dans la nature, c'est beaucoup plus flexible. Il y a effectivement le couple qui s'appelle le mating pair, c'est un couple reproducteur. Et leur progéniture, ou dans les meutes nouvellement formées, des autres individus, parents ou non, qui viennent se joindre au groupe. Et dans toutes ces différentes interactions, eh bien, les individus subordonnés, donc qui ne se trouvent pas au top de la hiérarchie, peuvent contester, on va dire, les décisions ou les actions du couple alpha. Et c'est vraiment plus vraiment cette notion plus familiale avec les parents qui, on va dire, remettraient à l'ordre leurs enfants, et moins cette notion de hiérarchie très très stricte où il ne faut absolument pas dépasser son rang. Ensuite, de tous les autres comportements qu'on a pu un petit peu observer là-bas, il y avait les comportements de chasse. On n'en a pas pu observer beaucoup, étant donné que ça se passe d'habitude de nuit ou dans des endroits à couvert. Et il y a déjà moins de proies que ce qu'on pourrait penser. On a vu, ils mangeaient un gros cerf par ou deux pour une meute de 8 loups, ce qui est, ça nourrit quand même. Un grand nombre, donc non, ce ne sont pas des carnassiers qui mettent à terre un nombre incalculable de bêtes. Et ils ont un aspect bénéfique sur l'écosystème, parce que ce sont des animaux qui, en chasse, vont se focaliser sur des proies qui sont les plus jeunes, les plus vieilles, les plus malades, bref, les plus vulnérables et celles qui sont le plus facilement attrapables. Ce qui, à terme, pour la population des ongulés ou les populations des proies, à ce qu'on appelle une sanitation effect. Donc, étant donné qu'ils vont s'attaquer aux individus les plus faibles, ils vont mettre les individus les plus forts vont subsister chez les proies, ce qui a un effet qui va augmenter un peu leur productivité à ces proies, puisque les individus seuls les plus forts vont survivre et vont pouvoir se reproduire. Donc, en tout cas, ce qu'on a pu en tirer, c'est vraiment de mon aspect personnel, j'ai jamais été sur le terrain. On a été en contact avec des loups assez proches, des fois, qui traversaient la route. Et jamais on ne s'est senti en insécurité. Au contraire, ils nous fuyaient. Il y a plusieurs fois où on s'est retrouvé un petit peu tout seul au lever du jour avec des loups tout près qui hurlaient. Mais ils ne sont jamais approchés. On n'avait jamais le droit de les approcher non plus, c'est la politique du parc. Mais même, ils restent à distance, ils nous surveillent de loin, mais ils ne vont pas, en tout cas vers nous, en tout cas les loups de Yellowstone. Bon, il faut savoir qu'ils sont aussi une espèce différente que celle-ci, une sous-espèce, et qu'ils sont beaucoup plus grands. Mais vraiment, cette image d'un loup très sociable, qui a des liens amicaux très forts au sein de sa meute, c'est vraiment quelque chose qui m'a frappée quand j'étais là-bas, et qui m'a vraiment enlevée. Enfin, je savais déjà que ce n'était pas forcément ça au travers des contes et de l'image qu'on s'en fait. Mais là, vraiment, c'était quelque chose qui nous a vraiment frappé au travers de tous les jeux et de toutes les interactions positives, sociales qu'on a pu voir là-bas.
Merci Candice. Donc on pourra lui poser des questions après sur le comportement social du loup, des choses comme ça. Mais là, c'était un bel aperçu sur ce côté. On a presque envie de l'aimer, le loup, comme vous le présentez là. Ça a l'air d'être un grand compagnon. Alors là, je vais passer maintenant la parole à Jean-Marc Weber pour un topo un peu plus helvétique. On a entendu quelque chose, c'est que le loup fonctionne beaucoup en groupe, que c'est quelque chose de très révélateur. Et là, pour le moment, en Suisse, à part la petite meute qu'on a évoquée dans les Grisons, il n'y a pas de meute. On en est où ?
Oui, merci. Bonsoir, mesdames, messieurs. Alors donc, petite présentation bis repetita. Jean-Marc Weber, inspecteur de la faune du canton de Neuchâtel à 100%. Je ne travaille plus du tout pour Cora. 12 ans m'ont suffi. C'était sur mandat de la Confédération pour suivre le retour du loup. Donc, si vous le permettez, en préambule, j'aimerais peut-être faire un bref historique de la situation du loup. Comme l'a dit justement Monsieur Samali avant, les premières observations et les premières présences confirmées de loups en Suisse ont été faites au milieu des années 1990-95, dans le Val Ferret plus précisément. Là, nous avions affaire à des éclaireurs, les tout premiers éclaireurs, vraisemblablement. Et puis la vague a commencé à déferler à la fin des années 90 avec le premier loup du Simplon qui avait malencontreusement rencontré un chasse-neige sur la route du col pour devenir de plus en plus importante et qui a amené à une colonisation assez conséquente du canton du Valais, puis à une avancée de la vague au-delà des Alpes pour finir en Suisse centrale. Donc actuellement, nous avons une vingtaine de loups, je dirais peut-être même un peu plus, puisqu'il faut savoir que la meute qui est établie dans la région de Coire comprend 8 individus, ce qui est quand même pas mal. Quid de la situation neuchâteloise? Eh bien, pour les personnes qui devraient être rassurées, le loup n'est toujours pas présent dans le canton. Nous n'avons pas de présence confirmée. Je vais utiliser ce terme de confirmer à plusieurs reprises au cours de ma présentation. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, nous avons plusieurs types d'observations. On nous rapporte avoir vu un loup là, avoir trouvé des traces là, etc. Mais ou trouver un mouton mort tué à tel endroit. Mais on ne peut pas se contenter de ça. Car simplement une observation peut être le résultat d'une confusion avec des races qui sont de chiens qui sont proches du loup. Un pas de loup n'est pas toujours évident, suivant la qualité du substrat, à identifier. Un mouton, suivant le type de consommation, n'est pas non plus évident à trouver l'agresseur. Donc nous, pour avoir une confirmation, nous devons avoir soit un animal capturé, mort ou vivant, soit des éléments d'ordre génétique qui nous permettront d'assurer cette présence. Et quand je dis d'ordre génétique, ça peut être de l'urine, ça peut être des extraits de crotte, ça peut être du sang si un animal a été blessé, on a fait une confirmation comme ça au Tessin notamment, ou ça peut être de la salive qui est prélevée sur les moutons qui ont été tués. Donc, à ce niveau-là, c'est ce que nous considérons comme présence confirmée. Et à ce jour, dans le canton de Neuchâtel, aucun de ces éléments n'a permis de confirmer une présence, bien qu'on ait eu des observations rapportées. D'ailleurs, le canton de Neuchâtel n'est pas le seul où la présence n'est pas confirmée, puisque tout l'arc jurassien du côté helvétique, et je précise du côté helvétique, n'a théoriquement pas de loups. Les loups suisses sont cantonnés dans les Alpes, dans les préalpes. Les plus proches de nous sont, c'est une femelle, dans les préalpes fribourgeoises. L'arc jurassien colonisé, oui. Côté français, nous avons eu, depuis quelques années, trois sites d'observation où la présence du loup a été confirmée. Le plus proche de nous, c'était en 2011, de l'été 2011 à l'automne 2011, c'est-à-dire quand même sur une courte période, un loup a été identifié dans la région de Pontarlier. Vous me direz, ça ne fait pas loin. Non, ça ne fait pas loin. De fait, on ne peut pas exclure que ce loup ait fait des excursions sur sol suisse, sur sol neuchâtelois, mais il n'y s'est jamais établi. Comme on ne peut pas exclure que le canton ait servi de lieu de transit à des individus qui ont, par exemple, colonisé les Vosges. Nous avons une petite population de loups dans les Vosges, donc c'est une zone de présence considérée comme permanente. Ce ne sont pas des erratiques qui passent comme ça, ils sont établis dans les Vosges. Donc pour aller dans les Vosges, ils ont dû passer quelque part. La voie la plus logique, c'est l'arc jurassien. Côté français, nous avons une présence confirmée en 2012 par piège photographique lors du monitoring du lynx, dans le Haut-Jura. Donc là aussi, on peut avoir des excursions qui se font sur sol suisse. Mais actuellement, je vous le dis, nous n'avons pas de présence confirmée. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça impliquerait d'avoir du loup sur le canton de Neuchâtel? On a pu remarquer pendant toutes ces années de présence en Suisse que le loup est souvent associé à des conflits, souvent source de conflits, notamment avec les éleveurs, aussi avec les chasseurs, mais surtout avec les éleveurs, puisque dans la plupart des cas, la présence du loup est découverte via des dégâts qui sont faits aux troupeaux de petits bétail. Il n'y a pas quelques dizaines de moutons qui ont été tués par le loup, il y en a un peu plus de 1100 depuis que le loup est arrivé en Suisse. Donc c'est, pour la petite population qu'on a, ça peut être quand même assez conséquent. Mais on assiste quand même, grâce aux efforts de prévention et de protection des troupeaux, à une diminution de ces dégâts. Le pic était en 2009 avec 358 bêtes tuées au cours de l'année. Et puis l'année passée, avec un nombre similaire de loups et une meute qui se comporte bien parce qu'elle ne fait pas de dégâts, on est arrivé à 120. Donc là, on voit qu'on a possibilité de mitiger ces conflits, en tout cas les conflits avec les éleveurs. Je ne dis pas qu'on va arriver à zéro dégâts, ce n'est pas ça, ce n'est pas le but, mais on aimerait arriver à éviter que lors d'une attaque, par exemple, 21 ou plus, entre 20 et 30 bêtes, soient tuées par le même loup ou par une meute. Donc pour le canton, c'est se préparer au retour de cette espèce. Et nous avons mis sur pied, il y a 2 ans déjà, un groupe loup qui est chargé, en fait, de plancher sur les mesures qui vont être prises dans le canton en cas d'arrivée de ce prédateur. Tous les cantons qui ont du loup sur leur territoire ont un groupe loup. Il y a un groupe loup national aussi, et c'est dans ces groupes que sont discutés, eh ben, tiens, quelles mesures on va prendre, si on doit fixer des quotas, ben, quel quota de tir on va, ou bien quelle limite de dégâts on va supporter ou pas. Donc voilà ce qui est des outils de gestion. Je pense que par rapport au conflit avec la chasse, je pense que vu le nombre de chasseurs qu'il y a dans la salle, on va les aborder un peu plus tard dans la discussion. Donc je laisse la parole au suivant.
Le suivant, c'est Monsieur Bernard Perroux. Merci Jean-Marc Weber. Alors on vient d'entendre qu'il y a un groupe loup depuis 2 ans dans le canton de Neuchâtel qui essaie de préparer le terrain. Alors pas le terrain pour que le loup fasse un festin, mais pour qu'il fasse le moins de dégâts possible dans les troupeaux. Alors Monsieur Perroux, vous êtes éleveur, vous êtes concerné au premier chef. Et souvent quand on parle du loup et qu'on parle de l'émotion et de l'émotionnel, ben c'est les brebis égorgées, c'est les dégâts aux troupeaux. Alors ça fait peur. Vous êtes en première ligne. Comment vous vivez ce rapprochement du loup? J'ai juste une carte de la Suisse que je veux montrer 2 secondes à l'assistance. Je ne sais pas si vous voyez bien. C'est une carte de la Suisse. Tout ce qui est en dessous du trait noir, c'est des endroits où on a vu le loup. Donc c'est toute la partie sud de la Suisse. Toute la partie nord, donc tout l'arc jurassien, pas encore de loup, mais vous êtes un peu pris en tenaille parce que dans l'arc jurassien français, il y a du loup. Comment vous vivez ce rapprochement? Le groupe loup, ça vous suffit? Comment vous sentez? Qu'est-ce que vous avez envie de dire? C'est à vous.
Alors tout d'abord, bonsoir tout le monde. Donc mon nom est Bernard Perroux. J'ai commencé donc sous forme d'hobby l'élevage des moutons, pour ensuite, dans les années 2000, de reprendre la ferme de Planèse, en dessous de Colombier, où on a pu créer un emploi et monter un troupeau d'environ 500 bêtes. Notre troupeau est organisé de la manière suivante. Donc, au printemps, il pâture la place d'armes de Colombier. Et à la même date, donc dans les années 2000, pour pouvoir estiver ces bêtes en montagne, nous avons loué 2 alpages dans le canton de Vaud. Donc un à la commune de Bay et l'autre à la commune de Lavelle-les-Bains. Donc ça se situe dans la limite du canton de Vaud et du Valais. Donc nos soucis actuellement, ils ne sont pas pour le canton de Neuchâtel, parce que personnellement, quand on voit les images qui nous ont été présentées tout à l'heure dans le parc de Yellowstone, je crois que ce n'est pas du tout comparable avec le territoire neuchâtelois par rapport à la circulation, etc. Donc mes inquiétudes dans le canton, elles sont faibles, mis à part éventuellement quelques petits troupeaux de moutons qu'on garde dans des régions comme la Tourne ou la Vue des Alpes. Mais là, on a très peu de soucis. Par contre, dans ces régions de Bay et de la Vallée-les-Bains, on a eu affaire déjà depuis quelques années à d'autres prédateurs, par exemple le lynx ou un couple d'aigles. Et en 2006, nous avons eu, semble-t-il, une attaque de loup, mais qui n'a jamais été vraiment confirmée par le Tierspital à Berne. Les bêtes ont été analysées, les dimensions des mâchoires ont été mesurées et tout, mais l'ADN du loup n'a jamais été prouvé dans cette attaque en 2006. Lorsqu'on a monté ce troupeau avec Jean-Marc Landry ici présent, nous avons été parmi les premiers en Suisse romande à former et à accepter les chiens de troupeau, donc les fameux patous, les chiens de protection. Tous ceux qui ont eu connu à l'époque Belle et Sébastien reconnaissent peut-être l'image de ce chien. Et plusieurs collègues éleveurs en Suisse romande, lorsqu'on nous a proposé avec le projet Cora, c'est de former ces chiens. Plusieurs de nos collègues ont renoncé en disant que lorsqu'on accepte de prendre ses chiens, on accepte le retour du loup. Et étant convaincu que le loup allait revenir d'une manière naturelle, on l'espérait, parce qu'on a aussi eu d'autres informations, j'y reviendrai tout à l'heure, nous avons été d'accord de former ces chiens de troupeau avec une équipe du CORA. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un travail conséquent, parce qu'il faut déjà que les bêtes, donc nos brebis, s'adaptent à la présence du chien, ce qui n'est pas évident. Il faut que ces chiens, les chiots, naissent parmi nos bêtes, donc ça pose passablement de problèmes. Il ne faut pas non plus qu'ils soient trop familiers avec le public, parce que lorsque vous êtes en montagne et que certains promeneurs les flattent ou leur donnent à manger, vous retrouvez vos chiens au village, etc. Donc, tous des problèmes qu'on pourra peut-être encore évoquer tout à l'heure. Il y a juste une chose que j'aimerais dire en introduction. Lorsqu'on parle des dégâts, M. Weber et Mademoiselle l'ont annoncé, on dit, bon, là, ces loups, ils mangent un cerf. D'accord. Dans un troupeau de moutons, lorsqu'il y a une attaque, c'est totalement différent. On dit que le loup, en principe, il se contente de manger une seule proie. C'est peut-être juste dans des parcs comme celui-là. Mais lors d'une attaque de loup dans nos troupeaux, ce qu'il ne faut pas négliger, c'est que le loup, tant que les moutons, par panique, bougent, il y a un stress, etc., il ne va pas blesser qu'un mouton et pas les plus faibles. Il va prendre tout ce qui bouge, il va en blesser de nombreuses. Hein. Ces bêtes vont souffrir, vont agoniser et il ne va pas se contenter d'en tuer qu'une, et j'insiste là-dessus. Et très souvent, on nous dit les dégâts, ben, il y en a 14, il y en a 15, etc. Ce que tout le monde sous-estime, c'est les autres dégâts qui ne sont pas visibles. Ça veut dire que vous avez des avortements qui peuvent être provoqués par ce stress. Vous avez votre berger qui s'est donné de la peine pour former ses autres chiens de rassemblement, des border collies ou d'autres chiens qui n'arrivent plus à faire face pour diriger le troupeau pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, parce que ces bêtes ont été stressées. Il y a des bêtes qui peuvent peut-être avoir déroché, qui ont d'autres blessures. Et ça, je crois que le grand public le sous-estime. Et je dirais que tous ces défenseurs du loup, si ces mêmes loups leur mangeaient leur petit compagnon, chat, chien ou lapin d'appartement, ils auraient peut-être une attitude un tout petit peu différente. J'aimerais quand même juste vous signaler que tous ces jours, on se lève la nuit, on a nos brebis qui agnellent, etc. On a des normes vétérinaires toujours plus strictes pour les transports des animaux, pour la traçabilité, etc. Et puis, quant au mois de juin, vous allez sur l'alpage, et puis c'est le loup qui vous bouffe vos agneaux. Je vous promets que ça ne fait pas plaisir. Alors, à titre d'introduction, c'est ce que j'avais à vous dire, et puis je réponds volontiers à d'autres questions après.
Voilà, ben on voit que les éleveurs sont très au fait, parce que le fait du loup qui tue plus de proies qu'il n'en consomme dans un troupeau, moi j'ai découvert qu'il y avait une appellation scientifique, ça s'appelle le surplus killing, c'est juste ? Donc c'est un phénomène connu, donc c'est M. Perroux qui nous l'a mis sur la table. Donc voilà pour les peurs concrètes de l'éleveur par rapport à son troupeau. Jacques Hénard, est-ce que vous avez, je ne sais pas si vous avez réagi quand j'ai entendu Jean-Marc Weber parler, il a dit au début il y avait quelques loups, c'est les éclaireurs, et après la vague a commencé à déferler, puis on en est à 20 loups. Alors c'est M. Weber qui l'a dit, alors une vague déferlante de 20 loups, moi je ne vois pas encore une meute gigantesque. Alors qu'en est-il de ces problèmes d'information, de désinformation et surtout d'émotion?
Alors écoutez, mesdames et messieurs, bonsoir. Moi, je suis ici non pas en spécialiste du loup, mais en regardeur des humains avec les animaux et en particulier le loup. Il y a quelque chose quand même de fascinant parce que les animaux n'ont jamais fait autant parler d'eux, me semble-t-il, que maintenant. Ma première exposition au musée d'ethnographie de Neuchâtel, je l'ai faite en 1987 et je l'avais intitulée « Des animaux et des hommes ». Et je me rappelle, ça avait créé, avant que je dise quoi que ce soit sur l'exposition, j'ai reçu des lettres d'insultes, des lettres anonymes, des lettres me poussant à révéler les comportements anormaux des humains face aux animaux, etc. Et je n'ai eu que des ennuis chaque fois que j'ai parlé d'animaux. Alors, j'espère que ce soir, ça ne sera pas le cas. J'avais dit dans une interview lorsque j'étais à Genève que j'aimais bien les braconniers. Et alors là, ça a été terrible. J'ai reçu des lettres d'insultes de part et d'autre et on m'a dit qu'on allait venir faire sauter le musée d'ethnographie de Genève, etc. J'ai reçu des menaces de ce type. Et puis en même temps, j'ai reçu des lettres d'invitation des braconniers valaisans qui m'ont dit « Hénard, vous êtes invité à manger du chamois à tel endroit, à tel lieu, à telle heure, etc. » Vous voyez ? Et alors c'est ça. Je crois que, indépendamment de tout ce qu'on va apprendre ce soir sur le loup, c'est ça que vous devez aussi avoir en tête, c'est réfléchir sur ces comportements que nous avons. Moi, j'ai simplement dit à plusieurs reprises, mais ça ne marche pas parce que les gens se fâchent, il faut que les animaux soient à leur place. Moi, je suis un fils de paysan. Chez nous, les chiens, ils passaient peut-être à la cuisine, mais jamais ils dormaient dans notre lit, voyez-vous. Et les chats aussi, on les tolérait, on les aimait beaucoup, mais on gardait des distances. Et aujourd'hui, cette distance, elle se transforme complètement. Hein. Et alors, moi, j'ai vu hier soir à la télévision, ou avant-hier soir sur France 2, les renards qui arrivent à Londres. C'est fantastique. Ils sont dans les maisons, ils avaient attaqué des bébés dans un lit, qu'ils avaient traîné dans le salon, etc. Hein. Aujourd'hui, je n'ai pas encore le temps de lire, il y a un article complet, une page complète dans le journal Le Temps, c'est les chats qu'il faut éliminer. Ce sont des destructeurs épouvantables pour l'environnement, etc. Alors le loup, hein, le loup, revenons au loup. On pourrait faire l'histoire de l'humanité où il n'y avait que des histoires de loups, partout. Mythologie, hein, les Grecs, Gengis Khan, les Romains, la louve quand même de Rome. Hein, Romulus et Rémus, c'est quand même pas rien. Hein, ces deux gamins qui têtent cette louve. Et je crois qu'on peut le voir, que nous sommes fascinés, je pense, comme l'avait dit madame, par les loups, parce qu'ils sont assez semblables à nos structures sociales. Vous avez dit qu'ils aimaient être ensemble, qu'il y avait une certaine hiérarchie, bien sûr, et puis qu'ils aimaient, lorsqu'il y a eu des conflits, la réconciliation. Ça, c'est fantastique de dire des choses pareilles. Et on est fasciné par ça. Mon cousin Robert Hénard, qui avait écrit « Mammifères d'Europe », que j'ai relu, je suis sorti de ma bibliothèque, il était un peu plein de poussière, mes livres, mais il dit quand même combien c'est difficile de voir des loups. Hein, et c'est ça qui m'a le plus frappé dans la relecture de ces textes, combien le loup est difficile à voir. Et il dit, moi j'ai été en Slovaquie, j'ai passé des nuits, des journées pour voir un loup quelques secondes, voire quelques minutes, et c'est extrêmement complexe. Donc le loup nous fascine. Alors, les historiens se mettent à regarder, parce que comme vous l'avez dit, je crois, M. Weber, on a toujours des informations qui ne sont jamais claires. On a vu, on espère ça. Et toute notre histoire, en tout cas européenne, elle est faite de commentaires de ce type. Et alors maintenant, des historiens se mettent vraiment à éplucher les archives communales, les archives régionales, et on voit qu'il y a quand même eu des morts d'hommes fréquemment, parce que l'Europe était pauvre. On voit que les loups, je ne le savais pas, attaquaient beaucoup en été, pendant les fenaisons, parce que c'était une bonne période, et on mangeait des humains. Et le pic, c'est vers 1690, paraît-il en France, que là, il y a le plus d'attaques de loups. Et ce n'est pas étonnant quand même que Perrault nous lâche le petit chaperon rouge en 1695. Hein ? Alors, bon, on ne va pas se mettre à analyser le petit chaperon rouge, mais tous les psychanalystes se sont penchés là-dessus. Hein, et on essaye d'expliquer, les anthropologues aussi, Yvonne Verdier, qui est une ethnologue qui a beaucoup étudié ces problèmes, nous montre que c'est une façon de raconter, au fond, l'éducation des femmes à travers le petit chaperon rouge. Hein, on y reviendra peut-être. Alors, c'est ça. Et moi, ce qui me... Encore une fois, ce qui me fascine, c'est qu'aujourd'hui, le loup, mais les animaux en général, sont ce que nous appelons souvent les animaux de la discorde. Chacun veut avoir raison. Hein, les gens de l'environnement, les éleveurs, ceux qui veulent voir. Et on peut quand même se poser une question. Est-ce qu'on a vraiment besoin de loup ? Hein ? C'est là la vraie question. Est-ce qu'on a vraiment besoin de loup ? Pourquoi est-ce qu'on a envie de voir des loups ? on en a peur en
qui
même temps.
Si difficiles à voir. Hein? Qui sont si difficiles à voir.
Ils sont si difficiles à voir. Puis on en a quand même peur, etc. Hein? Vous vous rappelez, moi je suis originaire des Bayards. Hein? Il y a la fameuse histoire de Jean des Paniers. Hein? On aurait tué un loup là-bas. D'où Robert Hénard a donné un loup à la commune, enfin à l'ancienne commune des Bayards. Et puis, bon, ben, Jean des Paniers, il avait des bracelets dans son sac. Il a pu calmer le loup un moment, puis après, ben, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu un coup de génie, il s'est mis à jouer de la flûte. Et le loup s'est calmé, et puis il a pu rentrer tranquillement chez lui. Vous voyez, on peut raconter des histoires à perte de vue, et je crois que nous devons réfléchir véritablement pourquoi on a envie de ça, pourquoi on n'a pas envie de ça. Et j'ai raconté ce matin, je terminerai là, M. Samali, que j'avais quand même été absolument séduit à l'époque par notre ancien inspecteur de la chasse et de la pêche, qui s'appelait Archibald Cartier, qui un jour nous a dit, bien, le lynx est là, dans la région. Hein, il l'avait introduit sans rien dire à personne. Et puis, il semblerait que ben, ça ne marche pas si mal. Hein. Alors, si on a envie de loup, il faudrait savoir pourquoi. On peut s'en passer peut-être. Madame dit que c'est bon pour l'environnement, pour l'écologie. Je sais que les éleveurs de caribou aiment les loups parce que on a du bon caribou avec des loups, etc. Et puis, bon, je pourrais raconter pendant des heures des histoires de loups, mais hein, il y a ce fameux, cette fameuse lycanthropie hein, qu'on retrouve dans toutes les sociétés, c'est des gens qui tout à coup se transforment en loups. Alors, en Afrique, on a vu des hommes lions. Ici, on voit des hommes qui se transforment en loups, les loups-garous. Et vous voyez, toute cette... et on n'arrête pas. Et je pense qu'aujourd'hui, même avec les connaissances que nous avons, avec l'esprit critique que nous pouvons développer, nous continuons à construire des légendes, à donner des informations curieuses. Mais ça nous explique sur notre façon de voir l'environnement et sur les comportements de société. Voilà, je m'arrête là.
Merci, Monsieur Hénard. Juste avant de passer à l'interaction avec la salle, parce que c'est le principe du café scientifique, on discute, j'aimerais juste relever deux choses pour pas qu'elles ne passent inaperçues. Moi, j'ai découvert, en regardant un petit peu ce qui avait été fait et publié sur le loup, non seulement les comportements de réconciliation, mais aussi l'impact, au-delà de l'amélioration du cheptel et des animaux, les plus faibles sont mangés par les loups, donc l'espèce se renforce, et aussi toutes des conséquences sur la flore. Parce que l'apparition des crottes de loups et passages de loups et tout font que, notamment dans des parcs, je crois même à Yellowstone, il y a des nouvelles espèces de fleurs ou d'herbes qui surgissent. Ça redynamise la biodiversité, ça favorise une biodiversité au niveau de la flore. Ça, c'est une chose que je voulais relever parce que je l'avais trouvé assez. Ça m'a interpellé. Je me dis, ben voilà, on parle du loup, on pense mouton, mais on ne pense pas petites fleurs. Une deuxième chose, et j'aimerais juste faire un bref tour de table, mais je dis bref, mais ils ont beaucoup de choses à raconter, c'est sur le côté information. Légende, désinformation. Et j'ai juste vu aussi en préparant ce café scientifique que, pour prendre l'exemple des Pyrénées, j'espère que Jean-Marc Weber ne me contredira pas, dans les Pyrénées, il y a un endroit où le loup a été observé avant d'être confirmé et ça a été communiqué tout de suite. Et les éleveurs se sont préparés, comme M. Perroux avec Jean-Marc Landry, des chiens et tout, et ça s'est bien passé. Dans les Pyrénées orientales, plus loin, un loup a été observé, il a même été, semble-t-il, confirmé, mais les autorités du côté français n'ont pas voulu communiquer. Elles ont dit, oh, il n'y en a qu'un, personne ne le voit, pas de souci. Le problème, c'est que 2 ans après, quand ce loup-là a piqué une fois la mouche dans un troupeau, tout de suite, les gens ont dit, il y a eu un lâcher clandestin, personne ne nous a dit, ce loup surgit de nulle part, ce n'est pas possible qu'il soit arrivé comme ça du jour au lendemain. Et là, les autorités ont eu beau dire, mais ça fait 2 ans qu'on savait qu'il était peut-être par là, plus personne n'y a cru. Ça a même donné lieu à la publication dans Paris Match d'une carte, on voyait une flèche qui partait des Abruzzes et qui arrivait juste dans les Pyrénées. Alors ça peut faire sourire parce qu'ils ont dit, voilà, le chemin du loup, c'est pas possible, il a fait ça en 2 mois, exclu. Alors on se dit Paris Match. Le problème, c'est que 2 jours après, la même carte a été publiée dans Le Monde, qui faisait aussi un reportage sur le loup. Ils ont repris la carte en pensant que c'était vraiment ce loup qui a fait ce grand trajet. Alors Jacques Hénard a évoqué le lâcher du lynx, et Bernard Perroux a dit tout à l'heure, et c'est une des craintes qu'il a évoquées quand je l'ai appelé, il m'a dit, je sais pas si j'ai envie de venir expliquer mes peurs. Il y a une chose qui lui fait peur, et j'aimerais bien qu'il le confirme, c'est que tout à coup, le loup n'arrive pas tout seul par les crêtes du Jura, mais qu'il arrive, comme l'a dit Narcisse Seppet en Valais, il fera que les 300 derniers mètres à pied. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous inquiète, que tout à coup un loup soit lâché ou transporté sans que vous ayez vraiment eu le temps de le voir ou de le sentir venir?
Alors écoutez, ça ne m'inquiète pas particulièrement, mais c'est vrai que dans le monde des moutonniers, la rumeur circule comme quoi il y aurait eu des lâchers sauvages. Et je préférais qu'on soit honnête avec nous, comme M. Hénard l'a signalé tout à l'heure lors des lâchers de lynx. Et ce qui me surprend un tout petit peu, mais ça ne m'engage que moi, quand M. Weber nous parle du loup qui s'est fait heurter par un chasse-neige, et puis qu'on voit que sur les photos, il a des griffes particulièrement longues, je ne suis pas assez spécialiste, mais je peux me poser la question si ce n'était pas un loup qui était en captivité, auquel on lui remettait gentiment les 10 heures le matin, le repas de midi et du soir, et puis que ce loup lâché a peut-être cherché un contact, j'entends, avec l'humain, mais ça n'engage que moi, et c'est, disons, une rumeur qui, peut-être chez certains chasseurs ou certains moutonniers, court depuis quelques années.
Jean-Marc Weber.
Alors nous, je crois qu'on a joué le jeu en se préparant avec nos chiens. C'est un travail qu'il ne faut pas sous-estimer. M. Landry le sait. Et je préférais que s'il y a des lâchers, qu'on nous le dise franchement. Et juste pour conclure, étant natif de la Chaux-de-Fonds, j'ai quand même des souvenirs où au bois du Petit Château, on a des louves qui chaque année ont des portées. La question que je poserais aux spécialistes, on a aussi le zoo des marécotes ou autres, que deviennent ces louveteaux qui naissent dans ces parcs?
Alors Jean-Marc Weber, c'est à vous.
Merci. Oui, effectivement, on a toujours la problématique du lâcher. Il est clair qu'au départ, lorsqu'on a le premier loup ou deux loups qui arrivent, on peut se poser la question, on se l'est posé avec le lynx, à raison des fois, on ne peut pas exclure qu'il y ait des lâchers. Mais il faut prendre certains éléments en compte. Et le premier, c'est qu'il faut, se rendre compte que le loup a un pouvoir de dispersion qui est énorme. Énorme. On a toujours dit, les anti-loups ont toujours dit qu'ils ne pouvaient pas passer des Abruzzo aux Alpes. Ceci a été, le contraire a été démontré. Un loup capturé, blessé dans la région des Abruzzes s'est vu équipé d'un collier émetteur et on l'a suivi par satellite et il a atterri tout seul, sans Renault 4 ou sans Fiat 500, dans les Alpes françaises. Donc c'est possible. Un loup a été marqué en ex-Allemagne de l'Est, un mâle. On l'a retrouvé 1000 km plus loin, au sud des pays baltes, en Biélorussie. Si vous tracez un cercle, il serait passé par Paris, les loups sont entrés dans Paris, ou il aurait amerri dans la Méditerranée. Et ceci en quelques semaines. Donc on voit qu'il y a un grand pouvoir de dispersion. Maintenant, on peut raisonner par l'absurde aussi. Si on lâche des loups, pourquoi lâcher que des mâles? Moi, si je lâche une espèce, je mets aussi des femelles, si j'ai envie qu'elles se reproduisent. On peut aller plus loin dans l'absurde. On peut se dire, ça peut être l'œuvre d'anti-loups. On lâche que des mâles pour montrer que le loup n'est pas le bienvenu, le loup fait des dégâts, mais on évite la reproduction. Hein ? On peut aussi raisonner par l'absurde. Voilà.
Donc, d'où quand même la nécessité d'une saine information et d'une bonne information comme celle, par exemple, les observations de Candice Barnard. Alors, on va passer maintenant à la discussion. On ouvre le bal. Il y a déjà un monsieur qui veut s'exprimer là-bas. On vous apporte. Attendez, on vous apporte un micro. Comme ça, tout le monde vous entend bien. Il n'y a pas de souci.
Monsieur Perrault, au parc du Petit Château à Chaux-de-Fonds, depuis 2001, il n'y a plus de loups. Hein.
Ça avait d'ailleurs suscité une grande...
Les Saint-Loups, le couple et les trois jeunes, ils sont au parc du Mont d'Orzère, entre le lac de Joux et Valorbe. Le surplus des petits loups à 20, ils ont été presque tous endormis s'il n'y avait pas un parc acquéreur, parce qu'il y a la bourse des eaux pour les animaux. Donc c'est juste pour vous dire. Encore une chose, le loup suit souvent les routes. Le cas du loup du Saint-Plan... Il y avait énormément de neige. Il a choisi la facilité et il a suivi la route. Puis, ma foi, il y a le chasse-neige qui est arrivé et puis il l'a zigouillé. Ça faisait un loup de moins. Voilà, juste pour clarifier la chose.
Je suis très content de cette précision. Merci de votre réponse. Bon, je dirais que peu de temps après, il y en a aussi un qui s'est fait prendre par le train. Donc, ils ne suivent pas que la route, ils suivent aussi les rails,
mais oui, parce
les chemins de fer. Mais écoutez, voilà, je suis content d'avoir cette réponse. C'est la première fois qu'on me la donne concernant la Chaux-de-Fonds. Et puis, vous avez donné une petite lumière sur la question que j'ai posée. Merci.
Pour rebondir sur ce qu'a dit tout à l'heure Jacques Hénard sur les relations hommes-animaux, l'euthanasie, parce que c'est le mot qu'il faut utiliser, de certains loups du bois du Petit Château avait suscité à l'époque une vague d'indignation. Il y avait une manifestation, je crois, auprès du bois du Petit Château. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou remarques dans l'assistance ? Madame.
Bonsoir, Michel Loisel. Moi, je suis toujours un petit peu surprise qu'il y ait une opposition entre les défenseurs des loups et les éleveurs. Moi, j'aime les loups et j'aime les moutons. D'accord. Et je pense qu'il faut aussi défendre les éleveurs. Mais il faut savoir aussi, monsieur, vous dites très justement qu'il y a des bêtes qui vont agoniser, mais il y a aussi des bêtes qui agonisent dans les alpages, c'est-à-dire les bovins et les caprins qui agonisent de maladies ou d'accidents. Et moi, j'ai les chiffres de 2011 de Berne. En 2011, pour les animaux de rente, il y en a 4221 qui ont été déclarés morts pendant la période d'estivage et 294 qui ont été victimes de prédateurs. Ça fait moins de 7%. Alors moi, je trouve qu'on doit aider les éleveurs pour faire en sorte qu'il n'y ait pas tous ces animaux aussi qui meurent pendant l'estivage, c'est-à-dire ces animaux qui vont tomber des montagnes, qui vont être blessés et qui vont être laissés. Donc vous dites qu'il y a des patous, je trouve ça très bien, mais peut-être aussi qu'on pourrait travailler en collaboration et non pas s'opposer. On peut aimer les moutons et puis on peut aimer les loups.
Je ne sais pas si M. Perrou veut réagir, mais bon, pas forcément.
Remarque. Écoutez, merci pour votre remarque. Alors, c'est sûr que des bêtes, ma foi, c'est des soins qui sont totalement différents. Ce soir, le débat, c'est le loup. Alors, si certains éleveurs soignent mal leurs bêtes ou ne s'en occupent pas ou qu'elles sont victimes, disons, d'autres décès que ceux des prédateurs, c'est un autre débat. Et nous n'avons rien contre le loup. La preuve, c'est que nous faisions partie des premiers à s'être préparés à ce retour. Et pour revenir aux patous, je peux vous dire qu'on a fait de bonnes expériences. Depuis qu'on a ces patous, on n'a plus d'attaque ni de lynx, ni de loup, ni d'aigle. Par contre, on s'y prépare. Et actuellement, en Suisse, les moutonniers n'ont aucune expérience puisqu'on n'a jamais eu vraiment d'attaque importante. Et simplement qu'on s'y prépare avec les moyens qu'on nous met ou qu'on met nous-mêmes à disposition.
Alors, Jacques Hénard souhaite intervenir. Après, on va venir vers madame.
Je voudrais juste faire une remarque.
C'est bon, il est branché.
Suite à l'intervention de madame, moi, j'aimerais quand même connaître dans le public pourquoi est-ce que vous avez envie de loups. Pourquoi ? C'est ça ma question d'anthropologue. On sait que c'est dangereux, on sait qu'on risque sa peau si on les rencontre. Moi, j'en sais rien, toutes les histoires qu'on raconte. Mais pourquoi est-ce que vous avez envie de loups ? C'est ça, moi, j'aimerais entendre quelques avis à ce sujet.
Pour conserver la biodiversité.
D'accord. Alors, et pour se réconcilier, dit madame. Et je vois qu'Andisban s'agite parce que vous avez. Jacques Hénard vient de redire que le loup était un meurtrier. Il a donné des chiffres tout à l'heure de 1600 où il y a eu des dizaines d'attaques sur des humains.
Moi, je voudrais juste justement rebondir sur ce que monsieur a dit. Le loup est dangereux, on va se faire attaquer. Il faut savoir qu'il y a une anecdote assez intéressante, c'est que les populations qui sont en contact constante avec le loup, notamment les Esquimaux ou les Indiens d'Amérique du Nord, qui ont toujours vécu avec eux, ne les considèrent absolument pas comme une espèce dangereuse. Donc c'est vraiment, je pense, en fait, un conflit pas vraiment sur le danger qui représente envers nous-mêmes, mais plutôt ce conflit qu'on a pour les ressources, à savoir justement le bétail. Parce qu'il me semble que dans tous les écrits, l'image du loup, on a toujours considéré dans les très anciennes civilisations comme un animal très sage, qu'on a énormément admiré. Et au moment où il y a eu ce développement de l'élevage, il est devenu un ennemi à la ressource. Et là, c'est là où on a commencé à un peu répandre cette notion plus malsaine, plus dangereuse et plus malfaisante.
Je me permets une petite image. Là, vous venez d'avoir une biologiste qui casse le mythe de l'ethnologue. C'est pas mal.
Voilà.
Donc voilà pour ça. Jean-Marc Landry.
Je peux casser le mythe de la biologiste. Oui, bonjour. Alors, c'est juste pour le débat. Je vais un peu jouer à l'avocat du diable. Vous avez parlé d'un historien qui avait écrit un bouquin sur les loups qui attaquaient l'homme, c'est je pense Jean-Marc Morisseau, qui de 1500 à 1900 a répertorié 5000 décès des attaques de loups. Donc j'aimerais savoir quel est votre avis à ce niveau-là. Si le loup n'est pas dangereux pour l'homme, pourquoi de 1500 à 1900 on avait autant de dommages entre guillemets sur l'homme ?
Alors, Je vais vous dire ce qu'on en a pu, parce que moi, je n'étais pas là à cette époque, je ne peux pas vous dire comme ça, mais de tout ce que j'ai pu lire, apparemment, donc oui, le loup est quand même un animal carnivore et c'est un prédateur, donc il n'y a pas un risque zéro, ça, on faut totalement le voir. Par contre, apparemment, ils ont, pas mal de scientifiques se sont penchés sur toutes ces attaques et tous ces reports d'attaques, et ils en ont conclu, à juste titre ou pas, mais que la majorité des cas des attaques de loups sur les humains étaient faites soit par des animaux hybrides, donc un mélange entre chien et loup, soit par des animaux malades qui avaient la rage. On ne va pas dire tous les cas, mais dans la majorité des cas. C'est ce qui a été conclu de ces études. Maintenant, des attaques de loups sains sur des gens, il y en a eu quelques cas en Amérique du Nord, assez récemment, et il y en a en Europe aussi, mais ça reste des événements ponctuels et rares comparés à l'image qu'on s'en fait de cette bête sanguinaire.
Vous avez vu, on est parti sur un ton très réconciliant, il nous ressemble, et là, tout d'un coup, on se dit, il va tous nous bouffer. Jean-Marc Weber.
Bien, j'aimerais... Ça marche ? Ça marche. Bon. Là, j'aimerais revenir sur ce problème de prédation de l'homme. Ce qu'il faut savoir, il y a un facteur qui est important. Hein. On a effectivement un prédateur qui se nourrit d'ongulés sauvages. Il faut savoir qu'on a vécu une grande période, une longue période, en ces temps ancestraux, où le gibier avait pratiquement disparu. Hein, l'homme avait exploité à outrance les forêts pour le bois et pour la nourriture aussi. Et finalement, si on prend le cas de la Suisse, le chevreuil avait pratiquement disparu de Suisse. Le premier chevreuil qu'on a vu dans le canton, c'était au début des années 30, 1930 ou fin des années 20. La première fois qu'il apparaît à nouveau sur les plans de tir, c'est en 1947. Et ceci pour toutes les autres espèces. Et on remarque à l'heure actuelle que où on a des cas de prédation sur l'homme, ce sont dans les zones où les proies naturelles du loup ont disparu. Si vous allez en Inde, les loups attaquent régulièrement des enfants ou des personnes âgées qui gardent des troupeaux de chèvres parce qu'ils n'ont plus rien à chiquer. C'est ça. C'est ça. Et les problèmes que nous avons actuellement en Amérique du Nord, où des interactions deviennent de plus en plus violentes, c'est simplement grâce à l'écotourisme, où les gens vont visiter les parcs, ils veulent voir des loups, ils les nourrissent, et puis les loups, à un moment donné, se retrouvent frustrés quand ils n'ont pas leur petit canigou. Hein? Donc ils deviennent agressifs, et c'est là qu'il y a problème. Donc si vous avez des loups qui gardent la peur de l'homme, il n'y aura pas de problème, et qu'ils ont à manger à côté. Et si on prend les loups italiens, ce que j'appelle... loup italien, la sous-espèce italienne, c'est-à-dire celle qu'on a chez nous, eh bien, à ma connaissance, il n'y a jamais eu de cas de prédation sur l'homme, du fait déjà que c'est un loup de plus petit calibre.
Une remarque de Jacques Hénard.
Oui, j'aimerais dire, alors en entendant M. Weber, vous serez d'accord avec moi, que le loup, c'est un produit de société riche, qui peut se permettre ça, puisqu'il n'y a pas beaucoup de danger, vu qu'on a suffisamment à manger. On pourrait aller jusque-là.
Le loup,
c'est un luxe de riche, le luxe. Loup. Voilà ce que je dirais.
Le loup,
un luxe. Pour provoquer un peu.
Jean-Marc Lanté, vous souhaitiez ajouter quelque chose ?
Non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, parce qu'on retrouve aujourd'hui beaucoup le loup dans des zones qui sont assez pauvres. Si vous allez dans certaines régions de l'Himalaya, de la Russie, si vous allez sur la Mongolie, le loup a toujours existé, et c'est des régions qui sont très pauvres. Tu me corriges, hein, mais... Puis pour revenir aux attaques de loups sur l'homme, donc bien sûr, je joue à l'avocat du diable parce que j'ai un enfant qui a 5 ans. Et c'est, pour l'instant, ça ne me fait vraiment pas souci. Mais ce que je voulais un peu vous dire, c'est qu'aujourd'hui, on a des loups dans les Alpes. C'est une zone qui est densément habitée et qu'il faut s'attendre ces prochaines années qu'on ait un problème d'interaction avec l'homme. Ça va arriver. On a eu l'année passée une bergère qui a essayé de récupérer un agneau et le loup s'est retourné contre la bergère parce qu'il faisait une défense de ressources, donc il défendait sa proie. Et c'est vrai qu'on a des problèmes avec le sanglier, qu'on peut avoir avec toutes les espèces... Non, mais des interactions avec l'homme. Et c'est vrai que le jour où le loup va se retourner puis mordre quelqu'un en Europe ou dans les Alpes, ça va créer toute cette polémique parce que derrière, il y a toute cette histoire du loup. Mais il faut s'y attendre. Puis là, j'aurais une question pour les deux biologistes et j'aimerais avoir votre avis. C'est vrai qu'il y a pendant très longtemps, on a éliminé les loups et je me posais la question si on n'avait pas aussi éliminé les loups les plus culottés, les plus curieux, puis qu'on avait fait une sélection de loups qui étaient plutôt peureux. Est-ce qu'aujourd'hui, on pourrait admettre que finalement, dans une portée, on favorise aussi ces loups qui sont beaucoup plus culottés, qui pourraient aussi se reproduire, puis qu'il y aurait aussi une part génétique et puis qu'on a un changement de tempérament chez les loups. Je ne sais pas ce que toi, Jean-Marc, tu en penses ou Candice.
Bon. Alors, on essaie de se lancer. Savoir si l'homme a fait une sélection, je sais pas, vraisemblablement, en pratiquant la chasse du loup, c'est clair que il a créé une peur chez le loup. Maintenant, est-ce qu'il y a quelque chose de génétique? Forcément, il y a tout ce qu'on appelle en anglais dans le texte le social learning, donc la tradition, qui fait que les parents vont apprendre à leur descendance des choses à faire, des choses à ne pas faire. Donc parmi les choses à ne pas faire, c'est fréquenter Homo sapiens. Je ne peux pas aller plus loin.
Candice Bahn, sur cette question peut-être de la...
Eh bien, personnellement, j'ai lu ça dans certains documents assez sérieux sur le loup. Justement, ils émettaient l'hypothèse aussi qu'en éliminant les individus les plus courageux qui s'aventuraient le plus près des hommes, eh bien, finalement, il y a eu quand même une sorte de sélection sur le comportement qui s'est faite. Peut-être assez minime, mais quand même apparemment un facteur qui est là.
Donc, à l'inverse du loup qui s'attaque aux proies les plus faibles, l'homme aurait tué les loups les plus courageux et donc l'espèce loup se serait un peu avachie.
Oui, et puis là, il se serait avachi, non, mais en tout cas, aurait développé cette frayeur de l'homme. Et on peut le remarquer aussi, on ne l'observe pas fréquemment. Il évite les humains.
Moi, j'ai une question que je vais poser comme ça parce qu'elle me vient à l'esprit. Jean-Marc Landry a fait ses études à la Chaux-de-Fonds, au gymnase de la Chaux-de-Fonds notamment. On y était ensemble, c'est vrai que je le sais. Il venait depuis, je crois, à Courtébert, dans le vallon de Saint-Imier, tout au fond, la Heute, depuis la Heute. Est-ce que cette topographie-là, ces routes, ce développement de l'habitat dans l'arc jurassien, c'est quelque chose qui interpelle beaucoup aussi les chasseurs, le développement urbain, périurbain, des habitations. Est-ce que c'est un territoire où le loup pourrait s'établir? Jean-Marc Weber dit, il est peut-être déjà passé, mais il ne s'est encore jamais établi. Est-ce qu'il pourrait s'y établir? Et alors la question clé, après, vu qu'on a une biologiste qui a étudié les comportements sociaux et la sociabilité du loup, un loup tout seul, moi honnêtement, ça ne m'intéresse pas tellement, mais une meute avec des petits, ça peut être sympa à voir. Alors est-ce que c'est un terrain propice ou pas du tout, c'est exclu?
Oui, peut-être, parce que je suis pas, parce que je pense que Jean-Marc connaît mieux que moi que ça, mais c'est vrai que je pense que l'arc jurassien, que ce soit le vallon de Saint-Imier ou tout l'arc jurassien, c'est des zones qui sont très intéressantes pour le loup et beaucoup plus intéressantes que les Alpes. On a dans beaucoup de régions plus de 50% de forêt, pas mal de gibier. Maintenant, ce qui va jouer le facteur le plus important, c'est l'acceptation de l'homme. Je veux dire, si vous voyez en Valais, on a beaucoup de loups qui sont arrivés. On avait dans le Bas-Valais à une époque 4 loups. Ils ont disparu, on ne sait pas trop pourquoi, mais on a chacun son avis. Mais c'est vrai qu'il a de la peine à s'installer, parce que je pense que l'homme ne veut pas du loup là-bas, mais dans le Jura, oui, je pense. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jean-Marc.
Bon, il est clair qu'il faut considérer les interactions, les conflits comme un facteur clé dans la présence du loup dans une région ou dans une autre. Mais il faut aussi tenir compte de la distribution des ressources. Hein, il faut parler de « Que mange le loup ?» naturellement.
Le titre du café scientifique, c'est « Loup y es-tu ?» et voilà, « Qui mangeras-tu »
Qui mangeras-tu? Et là, il y a une étude qui a été faite au sein de notre alma mater par Blaise Offert et moi-même dans le cadre de son master, Blaise Offert, que je salue au passage, qui était en fait une analyse des crottes que nous avons récoltées dans le terrain, puis des carcasses de gibier qui ont été trouvées. Et finalement, les résultats ont montré que la proie principale sauvage du loup était le cerf, avec plus d'un tiers des proies. Ensuite venait le chevreuil avec 21%, le chamois avec 4%, donc il n'appréciait pas particulièrement le chamois, et le tout venant, quand je dis tout venant, c'est lièvre, marmotte, renard, constituait le reste. Donc il faut s'attendre, si on a l'établissement du loup dans l'arc jurassien, qui va aller vers ses proies naturelles les plus probables, c'est-à-dire le cerf et le chevreuil, mais surtout le cerf. Donc pour l'instant, une meute dans le canton de Neuchâtel, peut-être au passage, elle viendra croquer un de chevreuil, mais elle ira plutôt dans le canton de Vaud, où nous avons les plus grandes concentrations de cerfs de l'arc jurassien. Enfin, c'est donc, ce que j'espère.
Donc, peut-être préciser pour les non-initiés que dans le canton de Neuchâtel, actuellement, il n'y a pas de cerfs. Il y a eu une ou deux observations, mais il y a...
On a une dizaine de cerfs.
Une dizaine de cerfs. Alors là, on parle gibier. Je sais qu'il y a des chasseurs dans la salle. Par souci de transparence, je signale à l'Assemblée que j'ai personnellement passé mon permis de chasse il y a 2 ans. Je le dis comme ça, vous avez vu que j'ai été d'une neutralité. En tout cas, j'ai essayé. Est-ce que dans les chasseurs qui sont en assistance, il y a quelqu'un qui aimerait se prononcer sur la venue du loup, ce concurrent, ce rival? Qu'est-ce que vous avez envie d'en dire? Oui, alors Denis Boya.
Merci. Oui, merci, bonsoir. Alors, si je reprends un peu l'historique de ce qui a été dit ce soir, on a aussi un tout petit peu parlé du lynx, d'Archibald Cartier en l'occurrence, qui a d'une manière ou d'une autre réintroduit le lynx il y a plus de 30 ans. Dans le monde des chasseurs, ça a été une immense crainte pendant très longtemps. Aujourd'hui, on en tire, je dirais pas les premiers enseignements, mais un certain nombre d'enseignements sur cette venue du lynx. Il y en a un certain nombre qui sont maintenant bien installés sur le canton. Je ne sais pas si vous le constatez, vous aussi, tout le monde, mais nous, dans le monde de la chasse, on se rend compte que le gibier, le chevreuil notamment, se retrouve de moins en moins en pleine forêt. Et si vous regardez en hiver, on a beaucoup de grands troupeaux de chevreuils qui se retrouvent en plaine ou dans le Val de Rue et autres. Et quand on va chasser, nous, l'automne, le chevreuil, on le trouve surtout en lisière de forêt, voire dans les champs. Donc, c'est vrai que le lynx a apporté une certaine diversité, une certaine qualité du chevreuil, peut-être qu'il va se servir dans les moins bons, dans les plus faibles et autres. J'en suis pas forcément persuadé. Depuis 30 ans que je chasse, le poids du chevreuil n'a pas vraiment varié. Les trophées qu'on peut en retirer, étant donné qu'on fait des statistiques, ne sont pas plus beaux que par le passé, voire même le contraire. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, le loup peut arriver. On a parlé de biodiversité. Je suis pour la biodiversité, pardon, mais elle a un prix, cette biodiversité. Et quel est le prix qu'on veut bien vouloir en payer ? Je suis quand même persuadé que la place du loup est plutôt une place passagère dans le canton, voire sur l'arc jurassien. De là, le voir s'installer, j'en douterais un petit peu en voyant tout l'écotourisme qu'on a sur les crêtes du Jura, notamment en hiver aussi concernant les randonneurs, les raquettistes et autres. Je me dis, mais quelle place on va lui laisser à ce loup ? Et si je vais encore un petit peu plus loin, je vais bêtement poser la question de la réintroduction de l'ours. Et à ce niveau-là, je pense qu'il y a déjà un certain nombre d'organisations environnementales qui seraient aussi intéressées à voir aussi arriver le loup.
L'ours.
L'ours, oui, pardon, excusez-moi. Alors, je pose la question sur cet ensemble de ces réflexions.
Bon, si je peux me permettre, première réflexion concernant une possible sélection du lynx sur de ses proies. Effectivement, le lynx ne va pas chasser les animaux les plus faibles. Par contre, il va chasser les plus étourdis. Hein, donc, ceux qui sont captivés par... le carré d'herbe qui est devant leur museau et qui ne font pas attention à l'arrivée du prédateur. Voilà, donc c'est à ce niveau-là qu'il y aura une sélection. Maintenant, concernant la réintroduction de l'ours, il n'a jamais été question de réintroduction. Il y a eu réintroduction du lynx, oui. Il y a eu retour du loup. Et concernant l'ours, c'est retour naturel. En tout cas, il n'y aura pas de réintroduction au niveau confédération.
Ça, c'est Jean-Marc Weber ou c'est l'ancien du Cora qui parle ? C'est l'ancien du Cora.
C'est les deux.
Les deux.
Les deux. Il n'y aura pas. C'est le message que donne la Confédération. Et puis, il ne faut pas se leurrer. Le Jura n'est pas un habitat favorable pour l'ours.
Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques dans l'assistance ? Oui. Monsieur Magnona.
Oui, Magnona, Jean-Michel. J'ai juste une question par rapport aux loups en captivité. Ils sont en captivité. Est-ce qu'ils sont pucés, ces loups ? On met des puces à tous les animaux sur Terre pour les recenser.
Il ne me semble pas des animaux en captivité. Par contre, ils ont des puces. Ok, ouais, parce que j'ai une amie qui bosse dans le, qui travaille avec les zoos. C'est des animaux qui ont un suivi assez rigoureux. Ils ne peuvent pas bouger d'une région à une autre. En tout cas, en Suisse, c'est très réglementé. Ils ont des passeports, enfin une fiche d'identité assez conséquente, et c'est très très réglementé.
Alors il y a une précision ici.
Merci. Bonjour, Roxane Kiroviak, soigneuse animalière en parc zoologique. Je peux vous indiquer que toutes les bêtes qui naissent en parc zoologique sont pucées, identifiées au niveau européen et voire au niveau mondial, qu'on ne peut pas acheter ou vendre un animal en parc zoologique, il est forcément échangé gratuitement entre parcs, et qu'effectivement, quand il y a une surpopulation, à l'heure actuelle, on stérilise. Donc, ce qui s'est passé avec les loups du bois du petit château, ça ne se reproduira plus. Donc, oui. Pas tous, non, mais ils peuvent donner la pilule, entre guillemets, à certaines femelles en fonction des espèces.
Il y a aussi l'euthanasie, vous dites. Ça ne devrait plus être. Donc, en tout cas, il y a régulation aussi dans les zoos, c'est ce que je comprends. S'il y a trop d'animaux d'une espèce, on évite qu'il y ait reproduction, ou alors, vous dites, on les élimine. Ça arrive.
Ça dépend tout de la politique du zoo. Dans certains zoos, ils décident de faire la stérilisation, mais dans d'autres zoos, ils font le breed and cull parce qu'ils pensent que c'est plus important pour la femelle de quand même faire son comportement de reproduction, quitte à malheureusement devoir tuer les petits plutôt que de la stériliser. Ça dépend de la politique du zoo.
Mais en tout cas, contrôle, oui. Après, Jean-Marc Weber. Jean-Marc Weber, sur la question.
Oui, j'aimerais juste quand même préciser que tous les loups que nous avons en captivité en Suisse sont des loups soit d'origine centre-européenne, voire scandinave, et américaine. Donc, ce ne sont pas les loups que nous avons en nature. Et de surcroît, outre le puçage des individus captifs, j'avais eu mandat de faire un relevé génétique de tout ce qui était captif de loups en Suisse. Donc, on a le profil génétique des individus des zoos de Suisse, en plus des puces.
Oui, monsieur.
Oui, Jean-Frédéric Malcotti, j'aurais voulu savoir si parmi les proies du loup, j'ai pas entendu parler du sanglier, est-ce qu'il y a des régions où le sanglier en est ?
Oui, effectivement, c'est un oubli de ma part. En Suisse, nous n'avons pas trouvé de sanglier dans les proies, puisque le sanglier est quand même relativement rare dans l'arc alpin. Par contre, c'est une proie relativement fréquente de l'autre côté des Alpes, en Italie. Il est régulièrement mangé. Plutôt des petits individus, des bêtes rousses ou des marcassins. Donc on pourrait s'attendre à ce que le loup vienne donner un coup de main à la section faune du SFFN.
Merci pour la précision. Oui.
Alors je continue, j'étais venu là-dessus, c'est parce que quelque temps de vous, c'est que le lynx s'est échappé de ce magnifique parc où c'est que les loups de la Chaux-de-Fonds ont atterri. Que se passera-t-il le jour où c'est que ces loups vont prendre le même chemin que le lynx ?
Donc la clé des champs.
Voilà.
Alors qu'est-ce qui se passe si un loup en captivité s'évade ? Est-ce qu'il a un espoir de survie d'abord, un loup en captivité ? Parce que M. Perrault a évoqué l'histoire du loup qui a les longues griffes puis qui se ferait tuer par un chasse-neige parce qu'il n'a pas l'habitude.
Bon, un loup est plus malin qu'un lynx. Le lynx a survécu. Donc on peut s'attendre à ce que le loup survive, mais il est clair que le message qui est donné par la Confédération, c'est qu'un animal qui s'échappe doit être capturé. Il est clair qu'un loup, ce ne sera pas évident de le faire, hein, quand on sait que les collègues italiens ou français ont mis des années avant de pouvoir capturer un individu, alors qu'on a quand même passablement de bêtes à disposition. Vous imaginez d'essayer de capturer un seul loup dans l'arc jurassien, il faudra passer du temps. Donc la solution, c'est la solution finale. C'est-à-dire un loup qui est soit il est prouvé qu'il a été réintroduit, ou soit il s'est échappé de captivité, on n'arrive pas à en faire façon, cet animal sera abattu. Si on peut.
Donc, je ne sais pas si on les a évoqués depuis le début, mais il y a les chiffres, suite à la décision du Conseil des États qui est sujette à discussion, sont établis. S'il y a 25 attaques par mois, sur un mois d'un loup, pendant la première année où il est là, donc l'année où il s'établit, on décidera, les autorités pourraient décider de le faire tirer. Ou alors s'il y a 35 attaques échelonnées sur une période de 4 mois. Ça, c'est pour la première année. Pas juste. Jean-Marc Weber.
Non, ce ne sont pas des attaques, ce sont des moutons tués.
Des moutons tués, enfin,
du bétail tué, des têtes fait, des bêtes de bétail. Hein. Ce n'est pas des attaques, parce que pendant une attaque, vous pouvez avoir 20 bêtes qui sont tuées.
Voilà, et à partir donc, de la deuxième année, voilà. Si les attaques se poursuivent, dès 15 bêtes tuées, on pourrait autoriser des tirs. Voilà, ça, c'est des choses qui sont déjà prises. Moi, j'ai bien aimé la question de Jacques Hénard à l'assistance. Pourquoi, au fond, souhaite-t-on le retour du loup ? J'ai entendu le mot biodiversité, puis réconciliation. J'aime bien le mot réconciliation. Mais c'est vrai que ça pose plein de défis. Hein. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions sur le retour de ce prédateur parmi nous. Jean-Marc Landry a évoqué tout de suite qu'il avait un enfant de 5 ans. Il a dit donc, j'ai pas peur, mais quand même, on y pense.
Non, ce que je voulais dire, c'est que depuis que je travaille sur le loup, on m'a toujours dit, ou les... en fait, j'ai tourné la question autrement, c'est que je travaille beaucoup en France avec des éleveurs, et c'est vrai que beaucoup d'écologistes ont dit le loup, il est beau, il est gentil, il est fantastique. On a beaucoup mis le loup sur un piédestal. Puis je pense que le loup, c'est une espèce comme une autre, qui doit être gérée comme une autre espèce. Et ça, c'est le premier message que j'aimerais donner. Le deuxième message, c'est de dire ben, le loup vit dans un environnement où il y aura des humains, et peut-être qu'un jour, il y aura une interaction avec un être humain, comme ça s'est passé en Amérique du Nord, comme ça s'est passé en Inde. Et que pour moi, en tant que biologiste, ça ne me pose pas un problème, parce que je suis biologiste et puis que je connais le loup. Voilà. Si un jour, il y a eu un bouquetin, une fois, je crois, qui avait foncé sur une personne au creux du vent, bon, ben voilà. Ça peut arriver avec un sanglier. J'ai rencontré un ouvrier qui a travaillé chez moi. C'est un sanglier qui a ouvert toute la jambe. Bon, ben voilà, il n'est pas mort. Et c'est vrai que si un jour c'est le loup qui fait ça, je suis un petit peu inquiet parce que toute la polémique qu'il y a là autour, on va dire voilà, le loup il est dangereux. Non, moi ça ne me pose pas de problème. Et le loup vit à proximité de l'homme en Europe. Il a toujours vécu à proximité de l'homme. Parce que déjà à la Grèce antique, on avait déjà des lois qui donnaient des primes pour tuer des loups. Et c'est la grande différence avec la comparaison du loup nord-américain. Le loup nord-américain vit dans des grands espaces. Mais nous en Europe, il a toujours vécu à proximité de l'homme. Et ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que la première espèce à avoir été domestiquée au paléolithique supérieur, c'est le loup. Et on pense que le loup s'est domestiqué, s'est autodomestiqué, c'est-à-dire qu'il s'est approché de l'être humain parce qu'il y avait des déchets qui étaient donnés par l'être humain au bord des camps, puis que le loup ben, s'est approché, puis que probablement les animaux qui ont une distance de fuite la plus courte eh ben, avaient accès à plus de nourriture. Cette énergie a pu être donnée pour l'élevage des petits. Mais ça s'est passé il y a entre 20 et 30 000 ans. Et le loup s'approchait déjà de l'homme. Donc pourquoi aujourd'hui, dans un environnement où il y a plein d'hommes partout, le loup n'irait pas dans les poubelles, s'approcherait pas des êtres humains? Ça me paraît normal. On le voit avec le renard. Ça dépend tout de la place qu'on lui laisse. Mais après, il faut aussi être... conséquent avec nos actes. Moi, j'aimais bien votre phrase, dire quelle est la place du loup ou quelle est la place de l'animal qu'on veut laisser. Ben, moi, si le loup vient dans mon jardin, je dis je l'accepte. Mais si un jour il mord quelqu'un, je dis ben, j'ai aussi la conséquence, aussi mon erreur. Donc après, il faut aussi accepter ça.
Oui, à vous entendre quand même, on a entendu, comme tu l'as rappelé, biodiversité, réconciliation. Mais moi, j'ai un peu l'impression comme ça que être contre le loup, c'est faire preuve d'un esprit très obtus aujourd'hui, non? C'est un effet mode, hein, n'est-ce pas, que j'aimerais pouvoir voir surgir de vos réactions et de votre ou à travers vos discours.
Alors, avec Jean-Marc, on a travaillé très longtemps avec des éleveurs, puis en travaillant avec des éleveurs, puis en étant sur le terrain, on voit aussi l'autre côté des choses. Et moi, j'ai vu en Valais des éleveurs pleurer parce qu'ils ont vu leurs brebis égorgées. On a vu, et vous l'avez bien dit, hein, des brebis qui sont encore vivantes, qui agonisent des fois pendant des heures. C'est des images qui marquent. Et c'est vrai que si vous allez en Valais aujourd'hui, dans la région de Chambéry, dans le Val Ferret, si on a une meute de loups, la question qui va se poser, c'est comment on va faire pour protéger ces moutons. Dans le système actuel, ça va être très difficile. Et c'est aussi pour ça que le loup a probablement beaucoup de peine à s'installer dans le canton du Valais. Et on le voit en France, si vous allez sur le parc national du Mercantour, où le loup est arrivé en premier, on a toujours beaucoup de dommages, malgré la présence du berger, malgré la présence des parcs. Et il y a une vraie question de se dire, est-ce qu'on n'arrive pas aussi à la limite de la cohabitation entre l'élevage et la présence du loup? Et on doit changer quelque chose. Alors, est-ce qu'on diminue la densité de loups? Est-ce qu'on change la méthode d'élevage? Et c'est vrai que des éleveurs comme Bernard Perroux, qui ont été des pionniers en Suisse, hein, qui nous ont aidés, parce que sans Bernard Perroux, je n'aurais pas pu faire mon métier, on n'aurait pas pu montrer que ça marchait. Mais il n'y a pas beaucoup de loups en Suisse. Donc le jour où on aura des meutes dans le Jura, dans les Alpes, je dis comment on va gérer ça? Et c'est une question qu'on doit se poser aujourd'hui, parce que je pense qu'on a la place pour les deux et que les deux puissent cohabiter. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas non plus oublier que derrière, il y a une culture, il y a un pastoralisme, il y a des gens qui vivent là derrière. Et c'est vrai que je suis très sensibilisé à ça, parce que bon, j'étais voir Bernard Perroux sur son alpage, comme d'autres.
Alors, madame et Jean-Marie Weber, après, pour réagir.
J'ai vu une émission à la TV en Amérique du Nord où il y avait des éleveurs, justement, et ils savaient très bien protéger leurs animaux, non seulement des loups, mais aussi des coyotes et d'autres prédateurs. Mais ils avaient beaucoup de patous, et ces patous étaient extraordinaires parce que, en fait, bon, les animaux avaient aussi un abri où aller. Et quand un prédateur s'approchait, les patous se divisaient en deux, il y en avait une vingtaine. certains faisaient s'éloigner le prédateur et les autres allaient mettre les brebis à l'abri dans une bergerie. Et là, il ne se passait rien, c'était les chiens qui faisaient tout. Il n'y avait aucun problème.
Bah, par rapport à ça, j'ai vu aussi que dans les Pyrénées orientales, où l'ours était déjà présent et où il y a eu des plans ours, le fait d'avoir déjà pris des dispositions par rapport à l'ours, ça a beaucoup facilité les choses. Il y avait beaucoup moins de problèmes là qu'ailleurs, parce que et les éleveurs et les habitants étaient préparés à avoir un prédateur dans les environs, dans les parages. Oui, Jean-Marc Weber.
Oui, là, il y a quand même deux choses. Effectivement, la protection des troupeaux de moutons fonctionne bien, mais il faut tenir compte que ce n'est pas partout que c'est comme ça. Si je prends par exemple le cas de la louve qui est présente depuis 5-6 ans ou plus dans les préalpes fribourgeoises, c'est une zone qui est impossible à protéger. La zone du Gantrich, du Kaiserreich, vous ne pouvez pas protéger, vous ne pouvez pas mettre de patou. Et là, à son actif, plusieurs centaines de moutons. Il n'y a jamais un permis de tir qui a été demandé. Elle est là, elle continue à tuer des moutons. Maintenant, deuxième point, on se focalise sur les moutons. Il n'y a pas beaucoup de moutons dans l'arc jurassien. Dans le canton de Neuchâtel, même dans l'arc jurassien, je ne sais pas, il n'y en a pas 5000. Par contre, il y a des vaches, il y a des chevaux. Et là, protéger des vaches et des chevaux, c'est notre paire de manches. À l'heure actuelle, on n'a pas de solution. On teste. Les chiens, les patous, ils peuvent être efficaces avec des moutons, mais ils ne sont pas acceptés par les vaches, et surtout pas avec les vaches mères qui se développent actuellement. Alors, on a essayé en Valais de mettre des moutons avec des patous au milieu des vaches. Alors, on ne sait pas trop si ça a vraiment marché. Je n'ai pas les nouvelles actuellement, mais on n'a pas vraiment eu le temps de tester parce que le loup s'est fait tirer avant que les premiers résultats aient été récoltés.
Pour être très concret,
il faut penser qu'on a un autre type de bétail, de proies potentielles. Il faut savoir que parmi les proies que j'ai énumérées, il y a quand même un quart des proies qui sont des animaux domestiques.
Là, on a entendu parler de ce groupe loup. Présente plus de temps, vous évoquez des solutions qui sont étudiées. Vous avez un calendrier, vous vous dites, il va être là ou c'est impossible de prévoir et de dire d'ici 2 ans, d'ici 5 ans, d'ici 10 ans ou...
Tu ne sauras ni le jour ni l'heure.
ça semble lâché, ça. Candice Bann, vous vouliez prendre la parole?
Non. Non, c'était juste pour rebondir sur ce que M. Jean-Marc Weber a déjà dit. Effectivement, il y a des solutions qui existent et elles ont été prouvées qu'elles fonctionnent pour la réduction des attaques, mais le risque zéro n'existe pas. Donc on n'a pas encore réussi à trouver des méthodes qui excluent complètement toutes les attaques.
Et puis, puisque vous avez le micro, je voulais juste vous... Ah ben, Barbara Molnar, alors je vous cède la parole. On va vous donner le micro, attendez un instant.
Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Barbara Molnar, je vais juste répondre à 2-3 choses que j'ai relevées. Effectivement, ce que Jean-Marc Weber disait, il y a le sanglier, premièrement, je reviens juste dans l'ordre, sanglier atteint jusqu'à 50% du régime alimentaire dans certaines meutes de loups dans les Abruzzes en hiver, parce que c'est une des proies essentielles pour certaines meutes. Là aussi, il y a les études du régime alimentaire qui sont faites régulièrement. Ensuite, pour ce qui est de la domestication du loup, il y a une deuxième théorie qui est celle que des hommes en fait, auraient ramassé ces louveteaux dans les tanières et que c'est eux-mêmes qui auraient sélectionné les louveteaux les plus aimables, les plus qui les supportaient le mieux pour diverses raisons. Il faut aussi savoir qu'en Amérique du Nord, les légendes qui existent là-bas sont absolument l'inverse de ce qu'on a ici, c'est-à-dire que le loup, comme disait Candice, est pris en exemple, et le frère loup, etc. Donc, les légendes sont aussi caractéristiques des cultures qui les développent et qui les nourrissent de différentes façons, en lien avec les guerres ou pas, et diverses choses. Et finalement, pour ce qui est effectivement, le gros problème dans la protection du bétail bovin, aussi le cas en Amérique du Nord notamment. Je suis passée, j'ai eu la chance d'aller là-bas quelques mois. Et le moyen qu'on avait, et ce qu'on faisait tous les jours, c'était de parcourir les pâturages à cheval pour inculquer et donc avoir vraiment une présence humaine parce que c'est
pour
la chose.
Pour marquer le territoire.
Pour marquer le territoire, exactement. Et plus il est marqué, mieux c'est, de toutes les manières que vous voulez, parce que là, le loup, lui, il devient effectivement plus méfiant. Ça marche beaucoup moins bien que l'ours, qui lui s'en fiche pas mal. Mais pour le loup, alors on a eu très très peu d'attaques pendant qu'on était là sur les lieux d'estive. Et bon, faut être dehors toute la journée, mais ça marche et c'est peut-être éventuellement une option à laquelle ici on n'a pas encore eu le temps de penser. Voilà.
En tout cas, sous le régime alimentaire du loup, moi je commence à avoir une vision assez précise et complète. Oui, monsieur Père, vous vouliez dire quelque chose ?
Juste par rapport à l'intervention de madame tout à l'heure qui a vu un film où une vingtaine de patous travaillaient, je me permets quand même d'émettre quelques doutes, hein, de voir 20 patous travailler. Ce que j'aimerais juste dire là, c'est que le moutonnier, dans le cadre de son travail, il a deux sortes de chiens. Il a des chiens qui sont par exemple des border collies, qui eux, leur mission, c'est de rassembler le troupeau, comme vous l'avez dit, les rentrer dans une bergerie. Et le patou, il n'effectue pas ce travail-là. Lui, il avertit de la présence d'un intrus, d'un prédateur ou autre, mais un patou ne va jamais vous rassembler vos bêtes. Et je crois que Jean-Marc Landry peut également confirmer ça. Et puis quand vous disiez que dans ce film, c'est très bien, c'était peut-être une exploitation de plaine, et les moutons pouvaient rentrer dans une bergerie. Nous sommes confrontés en montagne, j'ai des photos ici à votre disposition, et je crois qu'il faut se mettre dans le contexte du terrain, où déjà le moutonnier le soir, quand il a l'obligation maintenant, avec les nouvelles directives, de parquer ses bêtes, il va poser 7 ou 8 filets de 50 mètres de long et dans des pentes comme ceci. Donc, des bergeries en montagne, malheureusement, il n'en existe pas. Et cette solution que vous avez vue, elle est certes magnifique, mais malheureusement, elle n'est pas réalisable pour nous.
Donc, la réalité du terrain qui est obligée à être très pragmatique. Vous vouliez préciser, madame, peut-être ?
C'était pas des patous, comme on dit, les bergers des Pyrénées. C'était des bergers des Abruzzes qui sont rares et remis un petit peu à la mode à cause de ça, justement. Et ils gardaient pas seulement des moutons, mais toutes sortes. Il y avait des lamas, des dindes, il y avait vraiment énormément d'animaux dans un immense espace. Mais peut-être, comme vous dites, ça, j'ai pas regardé si c'était en pente ou pas.
Tout à fait. Donc, ces bergers des Abruzzes, tout à fait, ils ont certainement des qualités que je ne connais pas. Ouais, Jean-Marc voilà. Peut en témoigner. Ouais. Mais malheureusement, cette solution qui paraît idéale pour vous n'est pas réalisable dans le mode de garde que nous connaissons aujourd'hui.
Alors, madame, là-bas, peut-être, puis après Jean-Marc Landry, qui voulait ajouter quelque chose.
Bonjour, j'aimerais savoir, au niveau de la Confédération, quelles aides ont les éleveurs, justement, pour protéger les animaux quand ils sont dans les alpages. Et je pensais justement, par exemple, aux civilistes qui seraient peut-être tout à fait ravis d'aider les éleveurs pendant l'été.
Non. Alors écoutez, je commencerai par les civilistes. Alors effectivement, on a fait quelques essais de prendre quelques civilistes. Malheureusement, j'ai fait que des mauvaises expériences. Voilà, alors on espère pouvoir améliorer ça dans les années à venir. Et concernant les aides par rapport aux chiens, donc au départ, on nous a aidés effectivement à former ces chiens, on nous a donné quelques conseils, et aujourd'hui, malheureusement, la Confédération doit aussi réduire ses budgets, et les chiens, c'est nous qui les finançons. À l'époque, on nous payait aussi une partie de la nourriture, et aujourd'hui, nous avons toujours des aides qui ont été réduites, mais qui couvrent simplement une partie des frais de vétérinaire. Mais l'achat du chien se fait par l'éleveur, sa formation, et c'est quelque chose qu'il ne faut pas sous-estimer. Il y a beaucoup de temps à consacrer pour ça. De plus, concernant les aides de la Confédération, il est clair que pour pâturer ces alpages, il y a des primes qui sont attribuées pour les détenteurs de bétail qui nettoient ces alpages. Car le jour où ils ne le seront plus, eh bien, on aura des dangers d'avalanche dans certains villages, etc. Et c'est une tendance aujourd'hui que plusieurs communes aujourd'hui ne trouvent plus d'éleveurs qui veulent monter dans ces alpages. Il ne faut pas oublier que pour charger ces bêtes, c'est des frais de transport. Ce n'est plus possible de s'y rendre à pied. Donc, quand vous salariez un berger, vous avez des coûts de transport et tout, je dirais que ces aides participent à couvrir une partie des frais, pour répondre à votre question.
J'aimerais juste rajouter au niveau des aides de la Confédération que la Confédération a défini des aires prioritaires sur le territoire national, c'est-à-dire qu'elle va engager ses aides prioritairement dans les zones où le loup est présent, où le loup vient d'arriver. C'est-à-dire que si un éleveur du Jura, localisé à ses troupeaux de moutons en permanence dans le Jura, demande des aides, notamment la possibilité d'avoir un patou, non, la Confédération ne va pas l'aider. Par contre, si tout à coup, dans une zone où on n'avait pas de loups, on a une attaque qui se produit, la Confédération a un projet qui est le projet protection des troupeaux, qui est dirigé par Agridea, qui est l'ancien service de vulgarisation agricole basé à Lausanne, et qui dispose d'une troupe d'intervention, comme on l'appelle très militairement, de deux bergers ou aides-bergers, équipés ou accompagnés de quelques patous, et ces personnes sont mises à disposition de l'éleveur qui vient de subir les premiers dégâts pour une période de 3 semaines à 1 mois, jusqu'à ce qu'on puisse étudier la possibilité de mettre en place d'autres mesures de prévention.
Oui, c'était juste pour intervenir sur votre expérience que vous avez vue. Là, vous parliez d'une vingtaine de chiens. C'est vrai que dans les Alpes, il ne faut pas non plus oublier qu'on a beaucoup les moutons en hiver, entre 4 et 6 mois, qui sont en bergerie. Donc, il faut savoir quoi faire avec ces chiens en hiver. Donc, si vous avez une vingtaine en bergerie, ça pose un problème. Et on est aussi dans les Alpes, dans la région, je pense, la plus touristique au monde. Donc, on a aussi un conflit avec le tourisme avec ces chiens-là. Donc, je pense qu'on ne peut pas comparer vraiment les deux, puisque en Amérique du Nord, vous avez vu ça. Je pense qu'il y a peu de touristes, que chez nous, on a énormément de touristes et quelques conflits.
Rosita Malcotti, je voulais juste vous dire que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il paraît qu'en Roumanie, il y a 2500 loups et ils arrivent très bien à cohabiter avec eux sans problème. Tout est une question de protection, tout simplement. Et les attaques aux humains, c'est très rare.
J'étais en Roumanie, dans les Maramureș, hein, dans la frontière ukrainienne, et j'ai été voir des bergers, dormi avec eux, étaient en montagne. Et bon, il y a un maître berger qui accueille d'autres bergers avec des chiens. Mais ils ont quand même pas mal de dégâts, malgré tout. Moi, j'avais un maître berger qui me disait « Ouais, bon, cette année, on a perdu 25 brebis, 30 brebis, et c'était quelque chose qui était normal pour eux. » Donc, je pense qu'on n'est pas sur les mêmes situations. Quand j'étais là-bas, ma voiture est devenue une machine à remonter le temps. C'était autour des années 2000, un petit peu avant 2000. Et j'étais dans les Maramureș, où j'allais voir des gens qui vivaient comme chez nous il y a peut-être une centaine d'années. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, des bergers qui vont sur la montagne vont accepter de vivre comme ceci. Ils vivaient sous une cabane en planche, ils étaient 5, avec le plus jeune berger qui avait 11 ans. Ils trayaient 3 fois par jour chèvres, brebis et vaches. Je veux dire, on n'accepte plus ce genre de travail. Et si vous allez dans les Pyrénées ou dans les Alpes, on retrouve encore des gens qui vivent comme au Moyen-Âge. Et c'est inacceptable aujourd'hui. Donc je pense que les Roumains, comme les Ukrainiens, comme tous ces gens-là, ont une très grande expérience. Je pense qu'on peut partager, prendre ce qui est le meilleur chez eux, puis voir ce qui est adaptable chez nous. Mais je pense qu'on ne peut pas trop comparer.
On arrive tout près de la conclusion. Après, on peut continuer un petit peu la discussion. Moi, j'aimerais proposer... Il y aura peut-être d'autres interventions possibles après. J'aimerais proposer un tour de table, en recommençant dans le même ordre qu'au départ, en laissant, on va être sévère, Candice Bahn, M. Weber, M. Perrou et M. Hénard. On va vous laisser une minute, puis vous nous dites ce que vous avez envie de faire passer comme message essentiel dans votre domaine, dans votre secteur, sur le retour du loup. Puis après, on posera la question à la salle pour voir, parce qu'on a fait un sondage sur... la page Facebook de l'Université de Neuchâtel, il y a eu peu de réponses, mais à 95 ou 6%, les gens sont favorables au retour du loup. Alors Jacques Hénard qui se demandait quelle place on veut lui laisser. En tout cas, les gens semblent décidés à le faire revenir. Pourquoi, je ne sais pas. Donc Candice Bahn, en une minute, le loup, pourquoi ?
Alors moi, ça va être très clairement ma position de biologiste, mais je pense que, comme on l'a dit tout au long de tout ce débat, le loup questionne et personne n'est indifférent à ce sujet, mais je pense que c'est l'une des plus, pour moi, plus belles leçons d'humilité qu'il peut y avoir, parce que c'est pas la question de savoir si on est pour ou contre, chacun a son avis, mais pour ma part, je pense pas qu'on puisse vraiment décider de s'il a le droit de revenir ou pas, ce n'est pas quelque chose qu'on doit se poser. S'il revient, eh bien, il revient. Et maintenant, la cohabitation sera effectivement plus difficile ou pas, je ne sais pas. Il faut essayer de mettre en place des mesures. Je ne dis pas que tout va être beau et rose, non. Je pense plutôt que ça va être quelque chose de difficile à mettre en place. Mais voilà, c'est plutôt le message que je voulais passer. Pour ou contre, chacun a son avis, mais je ne pense pas qu'on puisse vraiment décider pour le loup, pour n'importe quelle espèce, savoir si elle a le droit d'exister ou pas.
Quelle sagesse. Jean-Marc Weber, une minute.
Je serai moins sage. Alors, le retour du loup dans le canton de Neuchâtel est inéluctable. Hein, il va se faire. Pour autant qu'on laisse les populations sources survivre. Hein, tout pendant qu'il y a de la reproduction. Maintenant, on a 250 loups présents sur territoire français, ça se reproduit, les jeunes dispersent, le loup va venir à Neuchâtel. Donc on doit se préparer, hein, ce sera difficile au départ, très vraisemblablement. Et puis il ne faut aussi pas perdre de vue qu'à un certain niveau de population, on devra gérer, hein, comme le lynx, on va dans cette direction-là, soit par des translocations, mais ça ne se fera pas avec le loup, soit par une ouverture à des tirs de régulation, parce que le loup est une espèce qui se porte bien quand elle peut se reproduire. Hein, on a des taux d'accroissement de 30-40%. Ce n'est pas encore le sanglier, mais ce n'est pas négligeable. Donc, voilà, il faut s'attendre à ça. Mais le loup viendra.
Donc, loup y es-tu ? Pas encore, mais c'est imminent. Monsieur Perroux ?
Alors écoutez, pour conclure, au vu de ce qui a été dit, pour nous les choses sont claires depuis le début. On a joué le jeu avec les mesures de prévention qui nous ont été proposées. On s'y attend à ce retour du loup. Et puis on va encore apprendre un tas de choses parce qu'en fin de compte, on s'y prépare, mais on n'a pas de grandes expériences. Et puis on sera contraint de faire avec. Et on collabore avec les milieux concernés pour que ça se passe le mieux possible et surtout que nos bêtes ne souffrent pas trop.
Et on a appris beaucoup de choses déjà, en tout cas ce soir, moi j'ai appris des choses intéressantes. Jacques Hénard, sur le côté.
Oui, alors moi je suis fasciné, je vous dis franchement, par la puissance du loup, encore aujourd'hui dans notre société. Et pour les ethnologues, c'est du pain béni, parce que c'est un déclencheur, un analyseur du comportement de la société qui est véritablement exceptionnel. Parce que tout le monde a des avis différents, chacun essaye de légitimer son propos et sa vision, et ça, c'est un bon élément pour étudier véritablement nos comportements sociaux aujourd'hui face à tout ce qui nous entoure, à cette société qui s'informatise, qui se mondialise, etc., qu'on ait encore le temps de discuter sur le loup. C'est quand même quelque chose d'exceptionnellement intéressant. Et la puissance du loup, moi je me rappelle toujours, je racontais même la chef de M. Seguin à mes enfants, et le combat la nuit, là, on parlait de la Renault, n'est-ce pas, qui avait résisté jusqu'à l'aube, etc. Et la petite chevrette blanche, là, qui en combattant le loup se rappelait ça, j'avais dû cesser de raconter ces histoires parce que mes enfants étaient traumatisés, ils ne dormaient plus toute la nuit, ils allaient sous les lits pour voir si le loup était là, et j'ai compris la toute puissance de cet animal dans notre imaginaire, et je crois qu'on a encore de bons moments devant nous pour nous auto-analyser et pour prendre des décisions quant à notre futur sociétal. Et je vous remercie de cet échange. Et je remercie les organisateurs de ce débat, parce que ça, c'est des vrais problèmes de société. Merci.
Merci. Donc, j'avais dit que je poserais la question, je la pose maintenant. Donc, c'est difficile de dire est-ce qu'on est pour ou contre, comme a dit Candice Bann, mais quand même, on sait qu'il y a des partisans, des opposants. Alors, dans l'assistance comme ça, à chaud, qui est favorable à un retour du loup ? Ça ne veut pas dire qu'on va le transporter ou le catapulter, mais qui se réjouit de le voir débarquer dans l'arc jurassien ? Qui est favorable et se réjouit d'un retour du loup dans l'arc jurassien, levez la main. Alors, on ne va pas compter cela, mais ça fait... Oh, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, allez, une petite quarantaine. Alors, qui est plutôt contre, défavorable et inquiet à l'idée du retour du loup ? Ah, vous n'allez pas le laisser tout seul, Igor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc à plus de 5 contre 1, ça correspond à notre sondage. On est à 9 sur 10 qui sont pour. Donc voilà, moi j'aimerais juste dire un petit mot, c'est pas le mot de la fin, mais j'avais envie de le dire. Il y a eu ce débat en France au Sénat qui a suscité un vaste débat aussi par rapport aux lois, la Convention de Berne, qui sont des choses qui chapeautent un peu toutes les règles dans les pays. Et puis la ministre française de l'écologie a dit « Le loup fait partie de notre patrimoine naturel ». Et ce soir, on a envie d'ajouter culturel, socioculturel, émotionnel, sa cohabitation avec l'homme, parce que s'il revient, il va revenir, c'est ça, c'est le défi à relever. Après, comment on le relève, comment on s'y prépare, comment on limite la casse, c'est un peu toute la question de ce soir. avec loup, y es-tu ? Alors pas encore. Et qui mangeras-tu ? Ben, on a appris qu'il mange aussi le sanglier, ce qui pourrait résoudre certains des problèmes du service de la faune dans le canton de Neuchâtel. Du cerf, et il n'y en a pas beaucoup dans le canton de Neuchâtel, donc voilà. Est-ce que quelqu'un aimerait vraiment dire brièvement un mot de la fin, ou est-ce qu'on s'arrête là, quitte à juste après ? Alors oui. Ah oui, je devais signaler qu'il y a dans la salle des gens qui vont faire passer une pétition pour le retour, une initiative, pardon, le retour des grands prédateurs. Et là, je ne vais pas parler de prédateurs, mais avant que j'oublie, le 20 mars, prochain café scientifique, humain ou singe, à qui l'AOC du langage ? On reste dans le domaine animalier, mais pour toute autre chose, est-ce que les singes ont appris à l'homme à parler ou l'inverse ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait ajouter quelque chose ou est-ce qu'on s'arrête là ? Monsieur, une dernière déclaration.
C'est vrai, je me réjouis si le loup revient. Mais je suis venu parce que j'ai le bonheur de posséder une très vieille fermette sur les hauts de la Brévine. C'est loin de tout, mais c'est près du loup.
C'est vrai.
Alors,
quand Jacques Hénard connaît bien la Brévine aussi.
Tant qu'il sera seul, il aura autant peur de moi que moi de lui. Moi, je n'ai pas autrement peur, j'entends ça, ça c'est clair. Mais le jour où ils sont en meute et puis qu'effectivement il a faim, là, moi, j'aimerais avoir un comportement correct. Et ce soir, je repars sans savoir ce comportement. Et je vois aussi...
Vous auriez dû intervenir avant, maintenant, c'est trop tard.
Et je vois aussi qu'en fait, pour les non-béotiens qui m'entourent, ben, ce n'est pas si évident de dire comment il faut faire.
Tout à fait. Alors, il y a Barbara Molnar qui a fait sa thèse de doctorat sur les loups de Yellowstone ou Candice Bann l'a accompagnée, qui va nous dire, alors vraiment, le mot de la fin, c'est à elle que revient la conclusion... Ça sera honneur aux dames. Candice Bann, vous nous autorisez de lui laisser le mot de la fin ? C'est bon ? Alors, Barbara Molnar, à vous le mot de la fin.
Ah, mais je suis très honorée. Moi, je voulais simplement dire, j'ai entendu beaucoup de choses, effectivement, concernant la peur du loup. Moi, j'ai vu des gens, comme on disait tout à l'heure, ces loups à Yellowstone, ils sont deux fois plus gros et plus lourds que ceux qu'on a ici. Et j'ai vu des photographes courir après une meute pour faire des photos. Et les loups... décampés droit devant. Donc c'est pas, ils se terrent pas, ils sont très curieux, ils vont peut-être guigner, vous avez trouvé peut-être des traces près des maisons, mais c'est pas qu'ils vont se préparer à attaquer. Enfin voilà, il faut changer un petit peu l'image qu'on a. Effectivement, on n'a plus du tout l'habitude, donc il faut revoir cette perspective. C'était impressionnant. Et après les loups, c'était la panique parce que la meute était séparée. Enfin, c'était le drame pour eux, mais pas de problème pour les gens. Et juste pour revenir à la question de Monsieur Hénard, pourquoi le loup, il est utile non seulement pour les petites fleurs, ça a été montré effectivement par des études de cascade trophique, donc cascade de nutrition locale à Yellowstone, mais aussi ailleurs, que une meute qui s'installe dans un territoire va favoriser la dispersion en fait, des proies, donc des cerfs et autres, localement. Donc, ce qui va avoir un impact sur l'abrutissement local et régional, qui va être mieux réparti en fait, sur le territoire. Et localement, ce sont non seulement les petites fleurs, mais aussi d'autres, toute la faune, la microfaune qui est liée à ces nouveaux habitats végétaux, qui va aussi pouvoir... reprendre le dessus très localement, comme ça, grâce à la présence d'un grand prédateur. Maintenant, ce n'est pas forcément... Mais autour des tanières de loup, ça a été montré. Donc, bref, il y a plein de bonnes raisons. Et c'est vrai, puisqu'il revient, la question pour moi, c'est plutôt de trouver les moyens pour faire en sorte que ça marche. Et ça, c'est grâce à l'effort d'éleveurs comme M. Perrault qui investissent de leur temps, de leur énergie et de leur bonne volonté pour que ça marche. Et je pense que le mot-clé, c'est l'échange, la discussion et l'ouverture. Et justement, ne rien cacher, parce que ça, c'est le pire moyen pour que ça ne marche pas. Donc, tant que ça ira.
Bah, vous revenez le 20 mars, puis je vous donnerai de nouveau le mot de la fin. Je vous remercie. Et je pense qu'on peut applaudir nos intervenants et le public. Voilà, merci beaucoup.